Bonjour à tous. On va faire donc cette troisième conférence à propos du Japon. Alors vous vous rappelez que la première conférence c'était sur un Japon qui était fermé, complètement fermé, hein, entre le 17e et puis le milieu du 19e siècle avant l'arrivée des Européens et des Américains. On a vu que c'était une civilisation brillante, mais une civilisation particulière. Et puis le Japon, vous vous rappelez, deuxième conférence, à partir de 1854 environ, donc était obligé de s'ouvrir du fait de l'arrivée des vaisseaux noirs du Commodore Perry, donc des États-Unis. Puis ensuite de tous les, disons, de tous les occidentaux, de tous les colonisateurs qui étaient intéressés par, disons, l'escale au Japon à ce moment-là. Alors, le Japon avait connu ce qu'on appelle une première ouverture, mais une ouverture forcée. On est bien d'accord, il n'a pas eu le choix. Et en réalité, le nouvel empereur a choisi, donc, si on peut dire, avec ses conseillers, et surtout ses conseillers d'ailleurs plus que lui-même, puisqu'il était très jeune, donc de s'ouvrir au monde pour éviter le sort du grand voisin d'en face, hein, la Chine, et donc d'être à son tour colonisé, dominé, exploité, etc. Donc, bon, vous vous rappelez ce que ça a donné, hein, ça a été quelque chose d'extraordinaire. C'était un Meiji pour les Japonais, puisque ça leur a permis d'être le seul, disons, peuple non-européen, puisque les États-Unis sont des cousins, hein, le seul peuple non-européen à connaître la révolution industrielle et ensuite à faire comme les autres, c'est-à-dire l'impérialisme et puis la colonisation, etc. Et le Japon a pris de plus en plus, la grosse tête, hein, et il a voulu systématiquement devenir la première puissance asiatique, voire même la première puissance du Pacifique. Résultat des courses, il s'est heurté inévitablement à l'autre puissance montante du Pacifique, mais de l'autre côté, à savoir les États-Unis. Et les deux pays ont eu des relations qui se sont, disons, tendues de plus en plus dès pratiquement 1910-1915 et surtout dans l'entre-deux-guerres. Ça aboutit, vous savez très bien, donc à Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Même scénario que lorsqu'on avait vu la guerre contre les Russes en 1904, hein, une attaque surprise, sans déclaration de guerre, de façon à, gagner le maximum d'avantages avant que, l'ennemi soit capable de réagir. Ça lui a donné donc une possibilité de gagner beaucoup. Alors d'abord, regardez, je vous ai ramené juste cette carte pour vous montrer à quel point le Japon s'était étendu entre 1858 et 1939, c'est-à-dire juste au 1941, si vous voulez, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez qu'il a réussi à prendre petit à petit donc Taïwan, Formose à l'époque. Il a réussi à prendre donc les îles Kuriles en même temps, vous voyez, tout à fait au nord du Japon. Hein, des îles Kuriles dont on va reparler parce qu'elles vont poser, et elles posent toujours des problèmes aujourd'hui dans les relations entre la Russie et le Japon. Alors les îles Kuriles qui étaient partagées en deux, on voit que la partie sud ici, la partie nord. Alors les îles Kuriles, les Japonais partent du principe que ces deux premières îles ici leur ont toujours appartenu. Que les autres, par contre, ils les ont colonisés, notamment, et c'est ça aussi qui pose quelques petits problèmes aujourd'hui. Ils ont récupéré aussi la moitié sud de l'île de Sakhalin. Ils ont récupéré, rappelez-vous, en 1910, la Corée. En 1931, ils ont récupéré la Mandchourie. Simplement, ils en ont fait le Mandchoukouo. Vous connaissez tous ce dernier empereur, Puyi, hein, marionnette, entre les mains des Japonais. Bon, et ensuite, en 1937, l'inévitable s'est produit, à savoir la confrontation entre le Japon d'une part et puis la Chine d'autre part. Ça commence en 1937, et vous voyez qu'en 1941, l'essentiel de ce qu'on peut appeler la Chine utile, c'est-à-dire celle-ci, est colonisée par le Japon. Une période dure, hein, une période... Donc, c'est-à-dire que le Japon a commencé par la Deuxième Guerre mondiale en 1937, en réalité, et donc va l'arrêter en 1945. Donc, il a connu une guerre mondiale plus longue, en quelque sorte, que tout le monde. Vous vous rappelez aussi qu'il y a quand même, un nom important pour les relations sino-japonaises aujourd'hui, c'est Nankin, hein, avec le massacre de Nankin. Bon, les chiffres divergent, mais enfin, entre 200 000 et 1 million de morts, bon, c'est pas trop. De toute façon, vous savez que donc la Grande Chine, les chiffres sont très vite inflationnistes. Hein, mais en tout cas, c'est un sac qui a véritablement ensuite marqué les Chinois, marqué également l'Asie, et il est encore un problème aujourd'hui dans les relations sino-japonaises, et puis plus généralement, pacifiques. Donc vous voyez à peu près l'extension. Donc le Japon est un peu au fait de sa puissance et il décide finalement d'aller encore un peu plus loin et donc cette fois-ci de s'attaquer au Pacifique et donc de dominer tout ce qui pourra dominer dans le Pacifique. Alors vous voyez à peu près ce que ça donne. Cette fois-ci, on sort de la zone classique. Alors vous voyez au maximum, hein, la ligne rouge que vous avez là, c'est l'extension maximale de l'Empire. Vous voyez que par rapport à la carte précédente, il s'est encore un peu étendu en ce qui concerne la Chine. En face de lui, en Chine, il a deux opposants, je vous rappelle, hein, on en reparlera un petit peu après. Celui qui est en théorie, disons, dirigeant principal de la Chine, qui s'appelle Chiang Kai-shek, et qui donc est un nationaliste, plutôt proche, si vous voulez, des États-Unis. Et puis, donc, son opposant à lui, mais qui ont fait quand même, au moins pendant la guerre, l'union sacrée contre les Japonais, à savoir Mao et les communistes. Hein. Et donc, les Japonais combattent contre ces deux puissances, véritablement. La guerre ne s'arrêtera jamais, hein, puisqu'il n'y a jamais de paix signée avec la Chine, et les combats dureront de 1937 à 1945 inclus. Bon, pour le reste, vous voyez, c'est ensuite la défaite des grands empires, on va dire, coloniaux européens. Ici, l'Indonésie, vous rappelez, c'est une colonie hollandaise. Elle tombe très rapidement, très important pour le Japon, le pétrole, hein, bien entendu. Ensuite, c'est tout ce qui concerne l'Empire anglais, avec la chute de la Birmanie, etc. Les menaces sur l'Inde, on en est très près. Bon, la Thaïlande y passe par la même occasion, pont de la rivière Kwai, enfin, vous voyez, tout ça. Hein. Et puis, en même temps, les Américains sont directement touchés, puisqu'ils possédaient, rappelez-vous, les Philippines, depuis 1898, hein, guerre contre l'Espagne, et les Philippines tombent entre les mains des Japonais, bien entendu. En même temps, d'autres possessions, donc, si vous voulez, américaines, donc, tombent entre les mains des Japonais, c'est-à-dire, par exemple, l'île de Wake, etc. Bon, ça, c'était, donc, juste après le raid sur Pearl Harbor, un petit peu plus loin. Vous voyez, jusqu'aux Aléoutiennes, voilà, si vous voulez, ce que c'est que l'Empire japonais à sa plus grande, disons, extension. Ces Japonais, bon, en même temps, ils vont essayer d'organiser fictivement une espèce de prospérité factice avec les pays donc, qu'ils ont libérés, d'après eux, du joug colonial européen ou américain. Et à partir de là, en principe, chacun devrait participer donc à la guerre selon ses propres moyens. Donc c'est la fameuse sphère de coprospérité de la Grande Asie, qui n'a de coprospérité que le nom, puisque en réalité c'est une mise en coupe réglée de la part des Japonais de tout ce qu'ils ont pris comme possession ici. Là encore, c'est pareil aujourd'hui, hein, dans les relations avec tous ces pays. Bon, la fameuse sphère de coprospérité est encore une sacrée pierre d'achoppement, et les Japonais ont toujours du mal à faire oublier cette période. Donc voilà, en gros, si vous voulez, à peu près ce que les Japonais donc ont dominé au maximum. Alors tout ceci, ça va pas durer bien longtemps, pour la bonne et simple raison qu'ils ont affaire à plus fort qu'eux, hein, et que je vous rappelle que les États-Unis vont très vite. C'est le système classique du colosse. Hein, il met beaucoup de temps à réagir, il est très lent à la détente, mais lorsqu'il réagit, la puissance ensuite. On va dire il met les bouchées doubles ou quadruples, etc. Et vous rappelez, par exemple, en une seule année, en 1943, par exemple, les Américains sont capables de construire 60 000 chars. Bon, ils lancent un Liberty Ship, c'est-à-dire un bateau de commerce tous les 15 jours. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Par conséquent, donc, si vous voulez, une puissance colossale. Et les Japonais n'ont plus qu'après fin 1942, début 1943, qu'une seule tactique, finalement, à opposer donc aux Américains, c'est une retraite, on va dire, élastique, et c'est la théorie des sauts de mouton. Vous vous rappelez, les Américains prennent une île, ensuite oblitèrent une autre île, sautent par-dessus, prennent une île suivante, en disant que la précédente, de toute façon, elle mourra de sa belle mort, puisqu'ils sont isolés, et on continue en direction du Japon. Bon, c'est ça, la Seconde Guerre mondiale, et ça se traduit, les Américains, bien sûr, ont une dent absolument colossale contre les Japonais, ils n'arrivent pas à leur pardonner, justement, l'attaque surprise sur Pearl Harbor, et ils veulent absolument punir le Japon, disons, dès qu'ils le pourront, et au maximum de ce qu'ils pourront faire. Bon, ça donne ensuite, dès que les avions sont à portée, ça donne les bombardements donc massif, hein, des super forteresses ou des forteresses volantes. Avant les super, c'est les simples forteresses. C'est un bombardement classique, hein, ça, c'est-à-dire au-delà d'une gare de triage à peu près, vous voyez à peu près ce que ça donne et ce qui doit rester après. Bon, le Japon est systématiquement bombardé, classiquement comme ça, des bombardements qui sont très durs. Hein. Tokyo, par exemple, en mai 45, est bombardé par 700 avions. Ça dure deux jours pratiquement, qui se relaient à peu de choses près. On estime le nombre de morts à environ 200 000. Bon, vous voyez, par conséquent, en plus, ça brûle vite, une ville japonaise. Hein, c'est des villes plates qui sont légères, etc. Il n'y a que les centres qui sont vraiment en béton. Donc, on a ce qu'on appelle des tornades de feu qui se déclenchent. Et les résultats, sont à la hauteur de ce qu'attendaient les Américains. Ça va de soi. Ceci étant dit, ça ne va pas assez vite. Là, ça ne va pas assez vite. Et surtout, ça devient trop dur. Les Américains ont de plus en plus de mal, au fur et à mesure qu'ils s'approchent du Japon, donc, à éliminer ou du moins à limiter leurs pertes. Et il y a le problème des kamikazes, mais pas trop exagérer dessus. C'est sûr que les kamikazes ont causé des pertes, mais c'est pas ça qui impressionne vraiment les Américains. C'est lorsqu'ils arrivent dans des îles comme Iwo Jima ou Okinawa, etc., c'est que ils ont des milliers de morts et de blessés parce que les Japonais refusent absolument de se rendre. Ensuite, rappelez-vous, font des assauts suicides, mais des assauts suicides pas aussi idiots comme on pense souvent quand on les voit. Des assauts suicides qui sont assez ciblés et qui font de gros ravages, vous voulez, dans les rangs américains. Puis l'Américain, le soldat américain, il comprend pas, d'ailleurs l'Européen ou l'Occidental, comprend pas qu'on puisse se suicider plutôt que se rendre, à cause de l'honneur, etc. Bon, donc les Américains se disent, plus on approche, plus c'est dur. Qu'est-ce que ça sera quand on va être au Japon, quand on va vraiment toucher l'île? Il va falloir des centaines de milliers de soldats, on n'a pas les moyens de les mettre. Ça va nous coûter en vies humaines, en blessés, en handicapés, quelque chose d'énorme, donc faut aller plus vite. Bah, la solution, vous l'avez là. C'est la bombe atomique, hein. Donc Oppenheimer, etc., et toutes les recherches qui ont été faites du côté de Los Alamos et autres, hein. Et on aboutit en fait à la construction, après de multiples essais, on aboutit à la construction de deux bombes. Non, il y en a pas trois, il y en a deux. Celle-ci, hein, donc qui s'appelle Little Boy, et l'autre qui est pourtant elle est assez grosse, hein, l'autre beaucoup plus grosse qu'on appelle Fat. Enfin bon, peu importe. On a deux bombes atomiques et les autorités américaines décident donc Truman en l'occurrence. Je vous rappelle que Roosevelt est mort le 12 avril 1945. C'est donc son vice-président qui a immédiatement pris de la relève. Je vous rappelle que Truman a été stupéfait par ce qui lui est arrivé. Roosevelt, je vous rappelle, était au pouvoir depuis 1933. Il avait donc un pouvoir absolument colossal, le seul président qui soit resté aussi longtemps, parce qu'après on a modifié la Constitution pour qu'on puisse pas faire plus de deux mandats. Bon, ceci étant dit, prestige énorme, sauf que Roosevelt n'a jamais associé son vice-président à quoi que ce soit. Résultat, Truman, quand il arrive au pouvoir en avril 1945, dit « J'ai cru que le ciel et les étoiles me sont tombés sur la tête. » quoi. Donc, il a tout de suite de grosses décisions à prendre, celle-ci en particulier. Donc, il décide de lancer une bombe atomique, tout simplement parce qu'il pense comme ça casser véritablement donc le moral japonais, et les Japonais vont bien se rendre compte que s'ils insistent trop, ils vont disparaître de la surface de la Terre purement et simplement. Il y a aussi l'autre idée qui est de dire, on va faire une expérience, on va voir ce que ça donne, quoi, parce qu'on sait absolument pas quels peuvent être les résultats d'une bombe atomique. Donc, vous voyez, dès que le Japon va capituler, il va y avoir une myriade de scientifiques, etc., américains et autres, qui vont se précipiter pour voir comment ça fait, quoi. Bon, surtout qu'ils auront deux exemples, puisque le 6 août, c'est Hiroshima, le 9 août, c'est Nagasaki, on espère que ça va s'arrêter. Surtout côté américain, parce qu'ils ont deux bombes, pas trois. Et il faut 6 mois pour en faire une troisième. Donc vous voyez, par conséquent, tout le monde se dit, est-ce qu'ils vont continuer? Alors, voilà ce que ça donne quand même, parce que c'est assez impressionnant. Ça, c'est le champignon de Nagasaki. Hein. Bon, l'autre a pas dû être très différent. Pourquoi Hiroshima? Pourquoi Nagasaki? Ben, deux villes, si vous voulez, qui sont des villes peu importantes. Imaginez qu'on ait balancé une bombe atomique sur Tokyo, on raye de la carte tout le monde, y compris l'empereur, avec qui on discute ensuite pour faire la paix. C'est difficile. Donc, par conséquent, on choisit des villes qui sont relativement petites et des villes qui n'ont pas une importance stratégique importante. Et puis, surtout, des villes qui sont pas trop mal situées. À savoir, si vous voulez, par exemple, Hiroshima, c'est dans une espèce de baie, un peu comme Nice. Ça, il y a donc des montagnes autour. On espère, comme ça, limiter un peu la diffusion de la radioactivité. Vous voyez, on a un peu penser à ce genre de choses. Il y a d'autres choses très différentes en même temps. Hiroshima et Nagasaki sont considérés comme des villes sans grande importance. Donc les Tokyoïdes, qui connaissent les bombardements depuis un certain nombre de mois, ont souvent envoyé leurs enfants dans ces villes-là pour être à l'abri. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça sera raté. Et deuxième chose après, lorsque le bombardement a lieu, il reste ça derrière. C'est-à-dire que la seule chose qui reste, c'est ce qui est en béton. Tout le reste est rayé purement et simplement de la carte. Là, on est juste au-dessus de l'impact. Alors, l'impact, il n'est pas au sol. La bombe éclate à quelques centaines de mètres d'altitude. Et les Japonais la prennent, on va dire, en pleine figure au maximum. Pour la bonne et simple raison qu'il fait un temps magnifique, il y a un seul avion escorté de deux chasseurs qui se pointent avec, la bombe dedans. Les Japonais, ils ont l'habitude des bombardements. Donc, quand il y a un bombardement américain, c'est 500, 600 avions. Ça fait un boucan infernal. Donc les sirènes retentissent, aussi celles qui se précipitent dans les abris. Là, il n'y a aucun bruit, il y a un avion et deux chasseurs à côté. Pensez bien qu'à partir de là, c'est pas la peine, il fait très beau en plus, on va pas descendre dans les abris pour le plaisir. Donc ils restent tous dehors et ils regardent l'avion au contraire. Quoi. Bon, évidemment, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Donc ça éclate à peu près à 900 mètres au-dessus du sol et ça donne ça. Ça, c'est les résultats le lendemain. Voilà une autre vue, si vous voulez, à peu près. Donc, vous savez, c'est le célèbre, la chambre de commerce qui est restée, qu'on a laissée aujourd'hui à titre de mausolée, en fait, par rapport à un parc du mémorial, comme on l'appelle. Voilà à peu près donc où on en est. Vous avez une autre vue ici, c'est celle de Nagasaki, cette fois-ci. Vous voyez Nagasaki avant et après. C'est-à-dire, il reste rien. Ça a été quasiment vitrifié, ou à peu près. Vous imaginez, par conséquent, ce que ça peut représenter. Voilà un exemple aussi, une des rares photos où on a le nuage, si vous voulez, radioactif au-dessus de Nagasaki, donc on est assez loin, mais enfin, vous voyez, à peu près, il s'étend très vite, etc. Bon, puis voilà, aujourd'hui, donc, ce qu'on voyait, cette chambre de commerce autour du parc, et on l'a gardée en état pour que, si vous voulez, elle rappelle un petit peu ce qui s'est passé ici. Bon, et à côté, ben, derrière, vous avez la puissance actuelle du Japon, ça va de soi. Bon, vous voyez, mémorial, même scénario, on le retrouve partout. Ben, les dégâts, on va dire, sur place, alors c'est très impressionnant. Si un jour vous avez l'occasion d'aller au Japon, il faut absolument passer par Hiroshima, puis absolument aller voir ce mémorial, parce que vous voyez, vous passez devant des murs, et puis bah, les murs, comme si c'était des fresques, sauf qu'il ne reste que les ombres. Mais si vous voulez, tout a été, donc les hommes qui étaient là, les femmes qui étaient là, ou les enfants, on voit leur vélo, etc., tout ça, c'est en surimpression sur les murs. Et donc, ils ont laissé tel quel, ils ont protégé, etc. Donc, ça, c'est ceux qui sont, on va dire, ont eu la malchance d'être trop loin de l'impact et malgré tout trop près. Résultat, bon, ben, ils vont mourir dans les semaines qui vont suivre ou les années après, etc. 200 000 morts au total, à peu près, en comptant sur 30 ans, hein, à la fois ceux qui sont morts tout de suite, 90 000, et les irradiés progressivement. Donc, vous voyez que ça fait un choc, effectivement. Alors, là-dessus, bon, ben, que faire? Ben, vous avez Hirohito. Donc l'empereur du Japon, qui a succédé donc en 1926 son père et qui est en charge. Alors là, il est en costume traditionnel. Alors je vous l'ai mis en costume traditionnel pour vous montrer comment il peut se représenter ou être représenté par ses sujets. Parce que, rappelez-vous, on a vu la constitution Meiji, l'empereur est un personnage sacré, un dieu ou d'incarnation de dieu sur terre. Il vit dans son palais, il est pratiquement intouchable, on ne peut pas lever les yeux sur lui, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et cet empereur, il se trouve confronté à une décision, qu'est-ce que je fais par rapport à la suite de la guerre. Donc il y a toute une discussion avec les militaires, et finalement, les militaires demandent à l'empereur de trancher, c'est lui qui prendra la décision, on arrête ou on continue. Et l'empereur, qui a vu le désastre, ne serait-ce que le désastre des bombardements classiques, dit on arrête, et par conséquent, c'est la capitulation. Alors la capitulation du Japon, c'est quelque chose, alors vous voyez aussi un peu Hirohito, donc en costume cette fois-ci, donc occidental, et dans son bureau, d'après la photo, il est en train de rédiger justement ce qu'il va dire pour la capitulation, c'est pas bien grave, parce que de toute façon, personne ne le comprendra. Il est enfermé dans son palais et dans la cour impériale, il y a toute une étiquette et il y a une langue qui est une langue extrêmement, si vous voulez, abscons et par conséquent, personne ne peut la comprendre. Donc il y a un traducteur qui va expliquer après l'allocution à la radio ce qu'il faut comprendre dans l'allocution de l'empereur. Vous voyez, pour vous dire à quel point le personnage que c'était. Et l'empereur dit tout simplement, je suis un homme comme les autres et il faut absolument déposer les armes, etc. Inutile de dire que ça frappe les Japonais. Bon, ça dure pas longtemps. Vous avez le 2 septembre 1945, les hauts militaires japonais qui vont signer sur le cuirassé Missouri en baie de Tokyo, donc la capitulation sans condition du Japon. C'est des militaires qui vont signer, c'est surtout pas l'empereur, parce que l'empereur ne doit pas être mêlé à la capitulation. S'il signe, c'est que c'est lui le responsable de la guerre. Or, les Américains, et notamment MacArthur, qui est juste à côté, derrière, ne veut absolument pas qu'on touche à l'empereur. Non pas qu'il adore l'empereur, c'est pas le problème, mais simplement parce que si, pour eux, c'est que déjà les Japonais ont avalé quand même quelque chose d'énorme, à savoir la capitulation, l'obligation de baisser les armes, l'obligation d'entendre que l'empereur c'est un homme comme les autres, déjà c'est beaucoup. Et si on leur dit maintenant on touche à l'empereur, on va en faire son procès et à la limite on va le juger comme un criminel de guerre, MacArthur pense que les Japonais risquent de se révolter. Et il sait très bien qu'il n'aura pas suffisamment d'hommes pour pouvoir mater une révolte au Japon et que, ça risque d'être catastrophique. Résultat, surtout pas toucher à la personne de l'empereur, pourvu que l'empereur reconnaisse la défaite, reconnaisse qu'il est un homme, reconnaisse qu'il va mettre en place une démocratie, etc. Donc vous voyez par conséquent comment les choses se présentent. Alors ça traîne pas, on peut dire, vous voyez, puisque très peu de temps après, vous avez l'arrivée justement de MacArthur donc sur le et des forces d'occupation américaines, donc qui débarquent et qui vont donc tout de suite prendre possession donc du Japon juste après la capitulation. En gros, ils arrivent à peu près au 15 septembre 1945. Vous voyez à peu près donc cette situation. Alors à partir de là, bon ben, ce que l'on peut essayer de voir, c'est finalement où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que ça donne. Alors, le Japon, pour essayer de comprendre comment ça marche, on va essayer de voir d'abord qu'est-ce qui reste du Japon en 1945, et puis ensuite comment ce Japon en 1945 qui est écrasé, qui est atomisé au sens strict du terme par deux fois, ben, je vous rappelle qu'en 1968 ça devient, ben, si vous voulez, le troisième grand occidental derrière donc les États-Unis, derrière l'Allemagne fédérale, avec, bon, du point de vue de la puissance économique, commerciale, etc. Donc, vous voyez, de ce Japon atomisé à cette position-là, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est quel était l'état du Japon en 1945, et puis ensuite, comment, petit à petit, de cet état-là, il a trouvé, en quelque sorte, la force de se redresser pour devenir ce qu'il est, cette énorme puissance économique, commerciale, financière, donc des années 60, et puis après. Alors voilà d'abord en gros où on en est. Vous voyez ici, bon, bah, vous aviez l'extension des conquêtes japonaises. Les flèches rouges, bah, c'est la théorie, on a dit, du saut de mouton, etc. Les Américains sont arrivés très près, Okinawa et Iwo Jima. Et ensuite, les deux bombes atomiques hein, qui permettent de mettre fin à la guerre. Bon, à partir de là, les régions sont libérées, bien entendu. Elles sont libérées soit par les Américains, elles sont libérées aussi par les Anglais, mais elles sont libérées également par les Soviétiques. Les Soviétiques qui sont restés l'arme au pied pendant toute la guerre, puisque rappelez-vous, en 1941, quand Hitler fonçait contre Moscou, il est évident que Staline ne voulait absolument pas qu'il y ait un quelconque combat de l'autre côté, puisqu'il voulait à tout prix retirer ses fameuses divisions sibériennes pour résister et, disons, enfoncer le front allemand devant Moscou et repousser les Allemands. Bon, donc, jusque pratiquement une ou deux semaines avant la capitulation des Japonais, il ne s'est rien passé. Et à partir du moment où Staline s'est rendu compte qu'il fallait qu'ils prennent des gages, bah évidemment, il a attaqué en masse le Mandchoukouo, la Mandchourie. Les Japonais, qui étaient pas mal armés, mais qui n'avaient rien à voir du point de vue terrestre avec la puissance soviétique, sont écrasés en l'espace de quelques semaines, quelques jours même. Et à partir de là, vous voyez, toute la Mandchourie va être occupée par les Soviétiques, ainsi que, si vous voulez, toute la Corée du Nord, etc. Cette Mandchourie sera plus tard rétrocédée à la Chine, lorsque, en fait, Mao aura pris le pouvoir pour l'essentiel. Bon, vous voyez, par conséquent, comment les choses se présentent à ce moment-là. Récupération aussi des îles, enfin, bon, passons. Donc, le Japon perd tout. Alors, le Japon perd tout parce que, si vous voulez, on ne va rien lui laisser. En d'autres termes, les Américains qui, là, sont à la manœuvre, ainsi que les autres pays, si vous voulez, de la région, ne veulent plus entendre parler du tout, donc, du Japon et des Japonais. Ce qui fait que, non seulement il perd ses colonies, il est obligé de retirer ses troupes de Chine, etc., et de tout ce qu'il avait conquis dans le Pacifique, l'Indonésie, l'Indochine aussi, je vous rappelle que l'Indochine a été occupée par les forces japonaises, gros sans combat, Vichy n'a pas beaucoup bougé, c'est le moins qu'on puisse dire, simplement, à la fin, les Japonais se sont arrangés pour, éliminer un peu plus, ou disons, faire un peu plus de pagaille dans l'administration coloniale française qui était sous-jacente, et ont laissé leur dépôt d'armes de façon à ce que d'éventuels Vietnamiens puissent commencer une guerre de libération contre nous. Par exemple, là, c'était, comme ils ont dit à ce moment-là, la solidarité de l'homme jaune contre le blanc. Bon, ceci étant dit, ça n'a pas trompé grand monde, et tous les peuples qui ont été dominés par le Japon ne veulent plus entendre parler du japonais. Ça veut dire que les Japonais qui sont installés à Taïwan, qui se sont installés, si vous voulez, en Corée, depuis 1910 ou avant, ils sont obligés de faire leur bagage, c'est-à-dire non seulement les soldats, mais les colons, y compris des Japonais, qui sont là depuis deux ou trois générations et qui n'ont jamais été faire un tour au Japon, par exemple. Donc ça veut dire qu'en l'espace de pratiquement deux ans, parce que le problème, c'est qu'il faut rapatrier ces colons japonais dans la mère patrie. Problème pour ça, encore pour les rapatrier, faudrait-il qu'on ait des bateaux? Ben, regardez pratiquement le petit schéma que j'avais trouvé tout à l'heure. Ben, j'ai dû le passer un peu plus loin, oui. Alors... donc les pertes de la marine marchande, vous voyez ce qui reste de la marine marchande japonaise. Vous avez, si vous voulez, à droite le tonnage lancé chaque année donc en navire marchand, et vous avez à gauche ce que les Américains et les Anglais ont détruit chaque année. Bon, pas la peine de vous faire un dessin, la marine marchande japonaise, elle est rayée de la carte. Ce qui fait qu'on n'a pas de bateau ni pour approvisionner le Japon, ni pour ramener les Japonais de l'extérieur. Et c'est pas rien, c'est 6 500 000 Japonais qui vont rentrer. qui vont rentrer dans un pays qui connaît, bien entendu, une croissance démographique très forte, puisque, rappelez-vous, pour être impérialiste et pour coloniser, il fallait des hommes. Donc, on avait une politique nataliste à tout va, et d'un seul coup, on voit arriver, alors qu'on a déjà un nombre de naissances considérable, 6 500 000 personnes qui rappliquent sur un territoire qui est tout petit. Vous voyez à peu près les difficultés que ça peut représenter. Donc, voilà, le Japon, donc, si vous voulez, perd tout. Alors, ce qui est le pire pour lui, c'est qu'il perd notamment Sakhaline, et il perd les îles Kouriles, c'est-à-dire que la frontière avec l'URSS passe à quelques kilomètres, si vous voulez, de l'île d'Hokkaido. Donc ça, c'est une chose que les Japonais ont énormément de mal à accepter, qu'ils n'ont d'ailleurs toujours pas accepté aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez, à peu près la situation. Bon, bien sûr, la Taïwan est restituée à la Chine, la Mandchourie un peu plus tard aussi. Bon, donc le Japon a tout perdu véritablement. Donc ces idées de grandeur, de dominer le Pacifique et d'être le numéro un, c'est terminé. Et les Japonais se rendent bien compte qu'ils n'auront plus jamais l'occasion de rééditer ce genre de choses. Alors démographiquement, la guerre a été coûteuse. Il y a 3 millions de Japonais qui y sont passés, 2/3 de militaires, 1/3 de civils. Ah, vous avez vu, ne serait-ce que les bombardements atomiques ou les bombardements classiques, ça a fait mal. Par conséquent, si vous voulez, on se retrouve avec 3 millions de morts à peu près sur 73 millions d'habitants au Japon. Mais juste 6 mois après ou un an après la fin de la guerre, il y a 80 millions de Japonais à cause des 6 millions et demi qui viennent de rentrer. Donc vous voyez, c'est-à-dire que le Japon se retrouve en 1946 plus peuplé qu'il ne l'était en fait en 1941. Bon, d'où un problème majeur assez évident. Bon, la population urbaine, elle a diminué de moitié parce que les gens ayant peur des bombardements sont partis s'égayer dans les campagnes. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Vous avez une pauvreté énorme qui touche également les Japonais. Pour vous donner une idée, en 1946, le revenu par habitant d'un Japonais, c'est $17. Vous voyez, même si, et 4 ans plus tard, ça sera $132. C'est déjà beaucoup mieux, mais c'est insignifiant. C'est-à-dire que les Japonais, ils ont pratiquement tout perdu. L'inflation, c'est 14% de hausse des prix chaque mois en 1946, et c'est encore 5% chaque mois en 1948. Donc, vous voyez, par conséquent, un pays qui est complètement, on va dire, dévasté dans tous les sens du terme. Bon, n'oubliez pas non plus que les Américains en veulent aux Japonais. Alors d'abord, il n'y a qu'eux qui s'occupent du Japon. En théorie, les forces alliées s'occupent des Japonais, vont occuper le Japon, comme l'Allemagne a été occupée, si vous voulez, par les forces soviétiques, etc. Et on a ce qu'on appelle le SCAP, SCAP, le commandement suprême des forces alliées, sauf que les forces alliées, c'est que les Américains. Il n'y a que MacArthur, proconsul, si vous voulez, des États-Unis, qui va, au nom des alliés, s'occuper du sort du Japon. Et on n'y va pas de main morte. Pour vous donner une idée, il y a des réquisitions. Il va y avoir des dommages de guerre à payer. Il y a, si vous voulez, toute une partie de la production qui peut être récupérée par les Américains. Les forces américaines d'occupation doivent être entretenues par les Japonais, etc. J'en passe et des meilleurs. Bon, les Japonais, c'est pas à peine de chercher. Ils sont complètement incapables de payer ce genre de choses, de supporter une telle occupation. Donc, ils savent plus du tout quoi faire. Autre chose encore, le chômage. Le chômage et, pire encore, la faim. On va pratiquement, pas franchement mourir de faim, mais pas loin. En tout cas, on aura une disette très forte à ce moment-là. Parce que le Japon, rappelez-vous, il peut pas survivre tout seul. Il faut qu'il fasse venir, sa nourriture de l'extérieur. Par quoi la marine marchande n'existe plus. Enfin, a priori, au départ, les Américains n'ont pas tellement envie de faire, si vous voulez, un pont aérien ou un bateau massif, si vous voulez, pour arriver à nourrir les Japonais. Donc, au contraire, après tout, ils l'ont voulu, maintenant ils l'ont, lors des fêtes, et maintenant qu'ils en bavent, quoi. Donc, si vous voulez, il y a cet aspect-là. Bon, en gros, pour vous donner une petite idée, le chômage, c'est 10 millions de Japonais en 45, c'est-à-dire 31% de la population active. Vous voyez ? Donc, à partir de là, comment faire, comment résister donc à ce genre de situation ? Imaginez que là-dessus, vous voyez appliquer 6 millions de personnes qui viennent de l'extérieur. Bon, ça devient difficile. D'un autre côté, vous imaginez aussi un certain avantage. Les gens qui reviennent donc de l'extérieur, ils ont tout perdu. Ils ont été virés de Corée, de Taïwan, etc. Ils ont tout perdu en même temps. Bon, ces gens-là, quand ils arrivent au Japon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ils n'ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner, donc il faut absolument qu'ils se refassent. Donc ils sont prêts à accepter n'importe quelle condition, n'importe quel type de travail, n'importe quoi, si vous voulez, pour pouvoir s'en tirer, pour pouvoir reprendre, si vous voulez, leur honneur. Parce que pour eux, le fait d'avoir été éjectés comme des malpropres et d'arriver sans rien, même s'ils ont une certaine partie de famille, quelquefois, qui peut les attendre, pour eux, c'est un déshonneur total, une humiliation parfaite. Donc s'ils veulent s'en sortir, il va falloir qu'ils se prennent en charge, etc. C'est un début de commencement d'explication de pourquoi le Japon va se redresser relativement vite, si vous voulez, aussi. Bon, on a le même genre de cas de figure pour l'Allemagne, pour la République fédérale allemande. Ceux qui viennent de Poméranie, de Prusse orientale, ils ont la même impression et la même volonté. Bon, sauf que les Japonais ont un corps social qui est nettement plus soudé et qui, par conséquent, fait que le système sera encore un peu plus massif. Bon, ben, à partir de là, si vous voulez, pénurie alimentaire, on ne peut plus manger, etc. On est sur le bord de la famine. Résultat, très rapidement, les Américains se rendent compte que s'ils laissent faire ça, ils vont avoir une révolte sur le dos. Pour la bonne et simple raison que les Japonais, ils sont tellement malheureux, ils ont tellement faim, etc., qu'ils risquent de se révolter purement et simplement. Et que là encore, même chose que pour l'empereur, et bien, les Américains n'ont pas les moyens de mater les Japonais si vraiment ils décident de se mettre en révolte contre les Américains. Bon, bah, la seule solution, par conséquent, c'est d'amener des bateaux pour commencer à nourrir les Japonais. Donc les Américains, en l'espace de 6 mois, vont passer de ceux qui veulent punir à ceux qui nourrissent. Et ça, par contre, vous allez me dire, bah, c'est pas grand-chose. Pour les Japonais, c'est énorme. Pour la bonne et simple raison qu'ils se disent comment ces types-là sont capables de nous nourrir alors qu'en fait ils nous reprochent à la fois notre trahison, Pearl Harbor, etc. Finalement, après tout, on est peut-être quand même quelque chose pour eux, on vaut peut-être encore quelque chose pour eux. Et l'empereur Hirohito s'applique à faire comprendre que oui, il faut y aller parce que, etc. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose, mais ça change un petit peu la donne. Alors, sans aller aussi loin, vous voyez par exemple ici, donc justement, MacArthur à gauche, à côté de l'empereur Hirohito dans son bureau. C'est leur première rencontre. Ça, c'est une humiliation sans borne pour les Japonais. Hein. Vous voyez l'armoire à glace qui est MacArthur, il n'a même pas sa casquette, il n'a pas de cravate, etc. Il est parfaitement détendu, il est à côté du petit bonhomme qui est l'empereur, manifestement qui ne peut rien faire, qui est à ses ordres et tout. Pour les Japonais, c'est un manque de savoir-vivre, cette humiliation, parce qu'on ne traite pas l'empereur comme il faut, etc. Bon, mais Douglas MacArthur le voulait vraiment, parce que c'est montré que maintenant, le Japon, c'est ça, et que le géant américain, c'est à côté, et puis on ne discute pas, c'est comme ça que ça se passe. Point final. Bon, vous voyez, et du moment que l'empereur est capable d'accepter ça, à ce moment-là, c'est la moindre des choses que ses sujets l'acceptent aussi. Donc vous voyez, c'est aussi ce qui fait, c'est assez bien joué de la part de MacArthur, parce que c'est une terrible humiliation, mais en même temps, c'est le fait de faire comprendre aux Japonais qu'après tout, les Américains, ils ont gagné le droit par la victoire de traiter le Japon comme ça, et qu'en fait, ils ne le traitent pas si mal que ça quand même. Résultat, par conséquent, donc, on peut peut-être leur faire confiance et envisager quelque chose avec eux. Alors, d'autres choses encore, les Américains, par contre, les Japonais, ils veulent plus du tout entendre parler de ce qui s'est passé pendant la période Meiji. Donc, il faut transformer le Japon. Ils ont la certitude qu'ils sont les meilleurs, ils sont les plus forts, ce qui est vrai, ils sont les plus riches, ce qui est vrai aussi. C'est la première superpuissance du monde à ce moment-là. C'est donc eux qui ont tout gagné, c'est donc eux qui ont la vérité pure et absolue. Donc, le Japon, ils vont le modeler selon leur vérité, selon leur forme politique, leur forme institutionnelle, etc. Et il n'est pas question de demander aux Européens ou à qui que ce soit de partager et de dire est-ce qu'on pourrait faire quelque chose. Donc, ne pas confondre l'ouverture qui va se produire ici avec l'ouverture qui s'est produite à Meiji. Rappelez-vous, le modèle que les Japonais ont pris à Meiji, c'est essentiellement le modèle européen et accessoirement l'américain. Et encore pas beaucoup parce qu'on s'entendait déjà pas trop bien avec eux. Là, c'est radicalement l'inverse. Le modèle européen n'existe plus. De façon, l'Europe n'existe quasiment plus en 45. Donc le problème ne se pose pas. Donc les Américains sont le modèle. Ils y sont arrivés. Ils ont dû trouver la clé du champ de tir, on ne sait pas. Donc après tout, ils veulent nous montrer ce qu'on doit faire. Eh bien, on va peut-être le faire. Donc vous voyez, par conséquent, pour les Américains, il y a deux mots-clés. C'est en gros démilitarisation pour l'essentiel et démocratisation du Japon. Vous voyez, il faut absolument faire un Japon différent, un Japon normal, etc. Alors, dernière chose aussi quand même, le Japon n'a pas tout perdu, parce qu'on a l'impression qu'il est complètement écrasé. En réalité, il a quand même encore des atouts. Alors, premier atout, rappelez-vous, c'est sa population. Parce que il faut pas confondre, vous savez que on entend quelquefois des gens dire après la guerre, il y a les NPI, les nouveaux tigres d'Asie, etc., la Corée, tout ça. Bon, et qu'est-ce qu'on dit ? On dit le Japon finalement c'est pareil, mais pas du tout. Le Japon, lui, il était déjà développé en 1941. C'était une grande puissance industrielle. C'était pas le cas de la Corée, c'était pas le cas des autres pays, si vous voulez, qu'on va appeler dragon et bébé tigre après. Donc, le Japon, il garde une chose fondamentale, c'est une population qui est très bien éduquée, c'est une main-d'œuvre qui est très bien formée, une main-d'œuvre spécialisée, et qui demande qu'une chose, c'est se remettre au boulot, c'est clair. Donc, vous voyez, par conséquent, il y a déjà cet atout-là. Deuxième chose aussi, les villes ont été très touchées. 40% de la surface urbaine a été rasée en 45, mais en gros, les deux tiers des industries lourdes qui servaient à l'armement, c'est-à-dire la chimie, la métallurgie, etc., tout ça, c'est resté quasiment intact. Par conséquent, si on donne de la matière première, de l'énergie et de la main d'œuvre à ces industries, elles sont capables de redémarrer rapidement. Donc, vous voyez, là encore, le Japon n'a pas tout perdu. Bon, enfin, si vous voulez aussi, on a gardé une chose, on a trouvé une chose, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va être utile après, c'est que les entreprises, pour produire toujours plus, pour faire face à l'effort de guerre, elles ont mis en place un système pyramidal qui fait qu'on a de très grosses entreprises, qu'on appelle les Aibatsu, hein, qui sont dirigées par les grandes familles, les Mitsui, les Mitsubishi, Sumitomo, etc., bon, qui sont des gens hyper riches, vous savez, c'est les descendants des samouraïs qui ont pris le bon tournant au moment de l'ère Meiji. Eh bien, ces grandes entreprises, elles ont trouvé le système de la sous-traitance et de faire travailler une bonne partie de petites usines, de petites et moyennes industries sous elles, avec une hiérarchie de sous-traitants, en les regardant de très près, etc. Et en vérifiant que c'est de bonne qualité, que le travail est bien fait en temps et en heure, etc. Eh bien, ça, si vous voulez, c'est une expérience qui n'est pas perdue. Et lorsqu'ils vont se lancer à l'assaut du monde, si on peut dire, d'abord pour se reconstruire eux-mêmes, ils vont reprendre le même modèle et ça ira de soi pratiquement. Donc vous voyez, non seulement c'est au niveau de ce qui reste, mais au niveau des méthodes, des pratiques, ben, il y a quelque chose qui va rester de la guerre. Enfin, il y a une dernière chose qui est importante, vous connaissez quand même, on l'a vu, l'importance du rôle de l'État au Japon dans l'économie, dans la société. Bon ben, même si l'empereur est mis hors course, l'État japonais, il persiste. Je veux dire, il y a un gouvernement japonais quand les Américains sont là. C'est pas une administration militaire américaine. MacArthur est là pour dire, voilà ce que vous faites, mais il y a un gouvernement japonais pour gérer, pour administrer. Sinon, les Américains s'en sortiraient pas. Par conséquent, un gouvernement normal, un gouvernement qui va durer jusqu'au retour de la souveraineté, si vous voulez, du Japon, une fois la paix signée, donc avec les Américains en 1951. Donc, si vous voulez, tout ça, cet État japonais, il existe toujours, et il est toujours aussi important. Et il maintient des liens très étroits avec deux autres composantes, bah, disons, du Japon, les entreprises, d'une part, et puis finalement, les salariés, par l'intermédiaire des syndicats, qui n'ont de syndicats vraiment que le nom, mais, si vous voulez, l'État garde donc une emprise très importante encore sur l'économie et sa société. Donc, vous voyez, tout ça, ça veut dire que si on remet, en quelque sorte, c'est un peu comme le réamorçage d'une pompe, quoi. La pompe, elle est bloquée, puisqu'il n'y a plus rien qui fonctionne, elle est desséchée, mais si on rejette ce qu'il faut au bon moment, ça peut redémarrer relativement vite, vous voyez. Alors, tout dépendra, après, de ce que veulent faire les Américains. Donc, voilà, en gros, si vous voulez, ce que c'est que le Japon en 1945. Alors, maintenant, ben, le Japon de 1945, ben, c'est aussi le Japon, si vous voulez, sous les Américains. Donc, par conséquent, première chose, on a dit, de 45, en gros, 46, on va dire, jusqu'à 48, à peu près, les Américains veulent quand même, d'abord et avant tout, punir les Japonais et transformer de fond en comble le pays pour que ça devienne une démocratie, pas une démocratie à l'américaine, ni plus ni moins. Hein. Et ça, dans tous les domaines, que ce soit les syndicats, que ce soit l'enseignement, que ce soit la politique, etc. Vous voyez à peu près ce qu'ils veulent faire. Alors, pour commencer, il faut apurer le passé. On a parlé de dénazification, vous vous rappelez, quand on est en Allemagne. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais plus longtemps qu'au Japon. Ben, là, c'est pareil, on essaye de punir les criminels de guerre. Avec une grande question, l'empereur est-il un criminel de guerre? Bon, la réponse est claire, pour les Américains, la question est claire, c'est non, hein, pas du tout question de s'en passer. Ben donc, on va donc juger ben, ceux qui sont responsables. Alors ça, c'est le Premier ministre Tojo, qui a été Premier ministre pendant toute la guerre, qui est considéré comme l'inspirateur de tous les crimes, de tout ce qui s'est fait pendant la guerre. Et donc, c'est lui qui va porter, en quelque sorte, donc la casquette hein, de tous les crimes. Alors, c'est d'ailleurs assez marrant, parce que le premier jour où il est interrogé, il commence par dire qu'il a fait exactement ce que l'empereur lui a dit de faire. Et le lendemain, il revient en disant « Mais pas du tout, l'empereur était au courant de rien, et en fait, c'est moi qui ai tout fait. Ben, » Entre-temps, pendant la nuit, il y a MacArthur qui est passé le voir en disant « Vous avez envie de conserver votre empereur, bon, faut peut-être changer un peu votre ligne de défense. » Et donc, par conséquent, c'est ce qu'il fait. Donc, il prend tout sur lui. En plus, il a compris qu'il y allait effectivement de la position de l'empereur, et donc de la position du Japon, donc il va tout accepter. Bon, ça va se traduire, c'est les procès de Tokyo, hein, ça se fait sur un an, à peu près un an et demi. Bon, on joue sur ce qu'on vient de faire, vous savez, à Nuremberg, pour faire en même temps ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire le crime contre l'humanité. Bon, par conséquent, à partir de là, un certain nombre de condamnations à mort, dont lui, et il sera exécuté par pendaison 2 ans plus tard, donc en 1948 pour l'essentiel. Bon, ça fera peu de morts, hein, je vous dis tout de suite, il va y avoir 9 exécutions réelles, une vingtaine de condamnations à mort qui vont être commuées en perpétuité, etc., et puis ensuite libérées au fur et à mesure, si vous voulez. Pour vous montrer ce que les Américains pensaient de Tojo, voyez. Donc ici, et vous avez en dessous, vous voyez le titre, là, il est au-dessus, cette espèce de vampire qui est sur un cadavre d'aviateur américain qui a été abattu, qui a été mangé, entre guillemets, vidé de son sang par Tojo. Bon, vous voyez, là, c'est vraiment pour montrer que les Américains, ils avaient la dent dure et qu'ils voulaient vraiment donc s'en débarrasser. Bon, alors ça, il fallait le faire, c'était obligatoire. Ceci étant dit, on va pas, pratiquement pas plus loin, parce qu'on s'aperçoit que si, c'est un peu comme en Allemagne, si on veut dénazifier, vu la façon dont la société japonaise était faite, si vous n'étiez pas un adorateur de l'empereur, vous n'étiez pas japonais. Donc à ce moment-là, on enlève tout le monde, donc c'est pas possible. Et puis, ceux qui étaient quand même les meilleurs, ben, c'est ceux qui avaient été choisis pour gouverner, ceux qui avaient été choisis pour administrer les provinces, les régions, etc. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent les Américains ? Ben, ils les gardent. Donc, en dehors de cette espèce de, ben, disons, de théâtre au départ, le reste, pratiquement, on va dire que ben, la démilitarisation, elle va très vite s'arrêter. Hein. Donc vous voyez, par conséquent, c'est un peu comme en Allemagne, sauf que c'est plus rapide encore, plus concentré, cet arrêt qu'en Allemagne. Alors, à partir de là, ben, les Américains font ce qu'ils veulent. Alors, vous voyez, ben, la première chose qu'ils font, c'est évidemment une constitution. Alors, la constitution, je vous ai mis les deux l'une à côté de l'autre. Vous avez ici la constitution, si vous voulez, correspondante donc à l'ère Meiji, hein, que vous avez à gauche, ici, si ça veut bien prendre ici. Alors, vous voyez, quand on regarde un petit peu, je vous ai mis en jaune ceux qui ont le pouvoir. Là, c'est clair, c'est le pouvoir, un intermédiaire, bon, alors qui nomme, qui veut dans la Chambre des Pairs, qui fait les lois, enfin, bon, passons. Bon, ben là, alors, il y a quand même eu des progrès, hein, pour vous donner une petite idée. Vous vous rappelez, quand on a vu l'ère Meiji, on avait dit que vous aviez des sujets, les électeurs, c'est un suffrage censitaire. En 1925, c'est devenu un suffrage universel masculin. Donc, malgré tout, il y a eu une certaine démocratisation. Bon, mais ça n'allait pas loin, l'essentiel du pouvoir était à l'empereur. Bon, qui était sacré, inviolable, etc. Donc, ici, vous voyez, après ce que ça donne, bon, on a une constitution qui est tout à fait classique, hein, garantie des libertés civiles et politiques, l'égalité des citoyens, accord de droit de vote aux femmes, hein, suffrage universel, donc si vous voulez, en même temps, donc mise en place à partir de 1946, en fait, ça sera vraiment appliqué en 1947, et vous voyez, la partie jaune, c'est la véritable pouvoir, bon, bah, c'est le Premier ministre qui nomme et révoque le cabinet, le gouvernement est responsable dans la Chambre des représentants, pour une démocratie parlementaire, j'en passe et des meilleurs, hein, vous voyez à peu près ce que ça donne, circonscription locale, circonscription nationale, suffrage universel, bon, là, les Américains reproduisent, bon, ce qu'ils ont envie de faire. Et voyez, ici, l'empereur, il est tout au-dessus, mais par contre, il n'est plus qu'une seule chose, c'est le symbole de l'État, c'est le symbole de la nation. Mais c'est une potiche. Si vous voulez, il n'a absolument aucun pouvoir, il représente, mais il est en quelque sorte le garant, bon, bah, disons, de la continuité du pouvoir et de l'État japonais. Voilà, si vous voulez, à peu près ce qu'on peut dire de ce point de vue-là. Deuxième chose aussi, la Constitution garantit un droit que, pour les Américains, est important, elle garantit les droits syndicaux. Puisque, rappelez-vous, les syndicats, ils n'avaient quasiment pas sous l'ère Meiji, ils étaient des syndicats aux ordres, si vous voulez. Bon, ben là, on va avoir droits syndicaux. C'est marrant, d'ailleurs, parce qu'au moment où les Américains sont en train d'enlever toute une partie des droits syndicaux que Roosevelt a donné pendant le New Deal, eh ben, ils vont donner les mêmes droits syndicaux que Roosevelt a donné pendant le New Deal aux Japonais. Vous voyez, il y a des fois, on se demande un peu pourquoi les Américains vont dans un sens, puis finalement font autre chose, etc. Bon, les syndicats vont avancer. Alors, en gros, la deuxième idée, c'est qu'il faut faire disparaître ce qu'on appelle un mot un peu barbare, ce qu'on appelle le kokutai et le shinto d'État. En gros, le shinto d'État, c'est quoi? C'est l'empereur, comme il était dieu, demi-dieu, etc., ben, il dominait toute la religion et la religion était intégrée à l'État. La séparation. Religion-État, l'empereur renonce à être dieu, la question est réglée. Et puis le kokutai, c'était que chaque japonais devait être absolument corps et âme au service de l'empereur. Ça s'était mis en place, déjà à Meiji, mais surtout entre 25 et 35 à peu près, moment où les militaires font tout ce qu'ils peuvent pour renforcer le pouvoir japonais. Alors ça, on supprime d'office, hein. L'empereur est quelqu'un comme tout le monde, et ni plus ni moins. C'est pour ça qu'on le montre ici. Alors voilà l'empereur, vous voyez, qui sort de chez lui, si on peut dire. Il va visiter donc toutes les provinces. Bon, il n'empêche, vous voyez, donc l'inclinaison de tout le monde. Mais il sort et il discute. Il sait pas dire grand-chose, d'ailleurs, parce que bon, il n'a pas trop l'habitude. Hein. Et chaque fois qu'on lui dit quelque chose, ben, il répond « Ah bon ?» Ce qui fait que les journalistes vont finir par l'appeler « Monsieur Ah bon ?» finalement. Mais, si vous voulez, c'est autre chose. C'est quand même, il est venu au niveau de son peuple. Et le peuple comprend que, bon, bah, finalement, s'il a abandonné tout son prestige, c'est pour lui, etc. Donc, faut pas décevoir l'empereur. Donc, faut faire ce qu'il dit. Donc, faut aller dans le sens d'un retour du Japon. Bon, deuxième topo après, c'est les mesures, on va dire, répressives vis-à-vis de l'économie. les Aibatsu, rappelez-vous, Mitsubishi, etc., ces grandes familles qui ont voulu la guerre et tout, ça ne doit plus exister. Par conséquent, donc, si vous voulez, en 1946, on décide de les sanctionner, et par conséquent, surtout de sanctionner les grandes familles qui possédaient ces Aibatsu. Les quatre Aibatsu, sous les Mitsubishi, Sumitomo et Yasuda, représentaient à peu près 70% de l'économie et de la puissance économique du Japon, avant-guerre. Vous voyez à peu près ce que c'est. Donc des familles richissimes qui dominaient tout, et des familles malignes parce que souvent, elles trouvaient le moyen de faire des participations au capital des différentes sociétés qu'elles contrôlaient, mélangées les unes par rapport aux autres, ce qui permettait comme ça une solidarité de fait. Et s'il y avait quelqu'un à l'étranger qui disait, ben tiens, je voudrais prendre une partie du capital, il était éjecté aussi sec, puisqu'il n'y avait aucune partie du capital qui pouvait être touchée, parce que dès qu'il y avait une demande, ben aussi sec, l'autre partie de la famille réagissait. Bon, ben là, on veut s'en débarrasser. Alors, vous avez ici, c'est les titres des actions que possédaient les grandes familles en question. Ben, on les confisque, hein, et puis on va les exproprier purement et simplement. Bon, on veut reconstruire une économie libérale, par conséquent, on fait une loi anti-monopole. En gros, on doit casser à peu près 325 sociétés qui, selon les Américains, ont un quasi-monopole sur, disons, sur l'économie. En réalité, pour vous donner une idée, on en fera véritablement 18 de scission. Il y aura simplement 18 sur 320 sociétés qui seront cassées. Autant dire que ça ne fera pas grand-chose. Là encore, vous voyez qu'on annonce beaucoup. Dans la réalité, on ira pas très loin, finalement. Bon, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les... voilà un Zaibatsu, si vous voulez, c'est celui de Mitsui ici. Vous voyez, le capital familial de la famille possède 80% du holding, qui est une banque, hein, qui possède tout le reste. Mais on ne voit pas tellement la famille, sauf qu'elle possède pratiquement tout. Bon, la seule chose qui va changer après, c'est que le capital, la partie capital familial va disparaître, eux vont vraiment être expropriés, mais ils vont être remplacés, si vous voulez, par d'autres activités, d'autres sociétés, d'autres actionnaires. Des banques vont prendre le relais, et en fait, on va se retrouver avec le même genre d'entreprise, sauf qu'il n'y aura plus la famille, c'est tout. Donc, il y aura toujours le nom Mitsubishi, mais les familles auront été expropriées. Et en réalité, si vous voulez, ça sera essentiellement les principales banques de l'économie qui tiendront dans les mains, disons, ce que possédait jusque-là le capital familial. Donc, vous voyez, en gros, une réforme économique qui apparaît assez radicale, en réalité, elle est relativement limitée, finalement. Bon. Autre chose encore pour dans le domaine économique, c'est une réforme agraire. Une réforme agraire que les Américains veulent faire à tout prix, parce qu'ils estiment que c'est parce qu'il n'y avait pas eu de réforme agraire dans les campagnes, que les paysans étaient trop nombreux, etc., qu'ils ont fourni par conséquent ces espèces de soldats prêts à tout, justement, pour conquérir le monde. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire une démocratie paysanne en donnant un peu plus de terre donc aux petits paysans qui travaillent la terre, parce que jusque-là, la plupart du temps, ils travaillaient la terre pour de grands propriétaires absentéistes. On exproprie les propriétaires absentéistes, on partage les terres, on ne sait pas beaucoup, 1 hectare, 3, 4 hectares, tout dépend de la qualité de la terre. Si la terre est très bonne, c'est 1 à 1,5 hectare, si la terre est pas très bonne, c'est 3, 4, 5 hectares. Mais on met en place, vous voulez, un monde paysan nouveau qui va être extraordinairement reconnaissant de cette réforme. Et les paysans qui ont là trouvent d'un seul coup que leur vie a changé. Ils sont plus exploités, ils sont propriétaires, ils vont se mettre à travailler la terre comme ils vont pouvoir, dire du mieux possible, ils vont produire beaucoup et ça deviendra une agriculture très performante. Bon, dans un premier temps, parce qu'après, comme c'est un peu petit, il est évident qu'au fur et à mesure des exigences de la modernisation de l'agriculture, les propriétés, il aurait fallu qu'elles soient 3 ou 4 fois plus grosses. Donc ça, plus tard, mais dans les années 70 seulement, ça posera des problèmes. Là, au contraire, on va avoir une base véritablement pour les réformes et pour le nouveau Japon, si vous voulez. Et des agriculteurs qui vont dire, nous, maintenant, on est chez nous, on est bien, on veut surtout pas des aventures extérieures, etc. Bon, ça, de ce point de vue-là, c'est exactement ce que voulaient les Américains. Bon, c'est-à-dire que de ce point de vue, c'est une réussite. Et eux, ils sont à fond pour la démocratie quand les Américains mettent en place à travers la constitution qu'on a vue tout de suite. Une dernière chose encore, si les Japonais acceptent facilement les réformes politiques, etc., c'est aussi, rappelez-vous, qu'ils sont éduqués. Et par conséquent, ils comprennent très bien ce qu'on leur fait faire, parce qu'ils ont un très bon niveau d'éducation, et par conséquent, ils ont vite compris quels étaient à la fois les inconvénients, mais aussi les intérêts qu'ils pouvaient trouver là-dedans. Sinon, autrement, ça n'aurait pas marché. Mais on a affaire à un peuple très éduqué, avec une éducation très forte, et aussi un peuple qui est quand même assez extraordinaire, qui est prêt à accepter pas mal de choses quand on lui demande de le faire, pourvu que ça soit l'empereur ou ceux qui le représentent qui le font. Ensuite, on a dit les réformes syndicales. Alors, les réformes syndicales, c'est très simple, c'est pas difficile à comprendre. vous aviez, en gros, des syndicats dans les entreprises, on a deux formes de syndicats. Soit des syndicats de type vertical, ça veut dire par conséquent qu'ils sont dans une entreprise seulement, et qui sont en gros pour l'essentiel liés à l'entreprise et donc liés à ceux qui gouvernent l'entreprise, et les syndicats qui sont horizontaux, comme on a dans nos pays à nous, où vous avez un syndicat de la métallurgie, un syndicat de, si vous voulez, de la chimie, etc. Et ils s'occupent de toutes les industries de la branche chimique. Au Japon, vous avez la chimie de Mitsui, la chimie de machin, la chimie de choses, et chacun chez soi. Bon, ben, qu'est-ce que font les Américains? Ils essayent de mettre, donc, justement, de l'horizontal dans le vertical. Bon, partir de là, bon, ben, c'est au début un peu difficile. Les ouvriers se demandent un peu ce qui se passe, et puis ensuite, très vite, ils ont compris l'intérêt. Le communisme est pas loin. Ben, très vite, il y a un certain nombre de dirigeants communistes qui commencent à apparaître et qui commencent à, ben, influencer les syndicats. Bon, les Américains commencent à se dire, tiens, est-ce qu'on n'est peut-être pas un peu ouvert la boîte de Pandore, c'est pas garanti. Bon, en tout cas, bon, les choses restent telles quelles. On réglemente les conditions de travail, salaire minimum, durée du travail de 6 jours de 8 heures, congé maladie, etc. Bref, si vous voulez, vous voyez, les Américains font les choses en grand, hein, de ce point de vue-là, là aussi. Bon, il y a une dernière chose qui reste et qui pose problème, c'est la population. Alors la population, ça c'est un drame, parce que vous avez vu, bon, ben, y a beaucoup trop de monde, hein, à cause des réfugiés, et puis surtout à cause du baby-boom. Les Japonais, ils sont comme tout le monde. Quand les soldats rentrent, ben, y a un baby-boom, il n'y a pas 50 solutions. Donc par conséquent, à partir de là, c'est naturel, c'est automatique. Bon, ben, on se retrouve avec un taux de natalité qui est de 34 pour 1000. Je pense que vous voyez à peu près ça donne. Pensez qu'en ce moment, nous, on est à 11,8 à peu près. Hein, vous voyez à peu près ce que c'est. 34 pour 1000. Un taux de mortalité qui est très faible, forcément. Parce que ceux qui étaient les plus faibles, en gros, la guerre les a un peu évacués, si je peux dire. Donc, ce qui fait qu'à partir de là, bon, ben, vous avez un taux d'accroissement naturel qui est extrêmement important. Donc, du coup, ben, on se retrouve déjà avec un pays qui est trop petit et on risque de se retrouver avec un pays plus que surpeuplé. Ça risque d'être invivable. En plus, on n'a pas assez de nourriture et tout ça. Donc, du coup, ben, on demande aux Japonais, ben, de se limiter, quoi. Alors, c'est pas évident dans ce domaine, parce que ça touche à l'intime, ça touche au couple, à la famille. Bon, eh bien, l'État japonais et l'empereur commencent par dire, bah, écoutez, on aimerait bien que vous fassiez un effort, et pour la gloire du Japon et surtout sa survie, bah, il faut absolument que vous ayez moins d'enfants, c'est clair, et que vous limitiez donc le nombre d'enfants dans chaque famille. Alors, en même temps, pour que ce soit plus clair, on fait des lois aussi, hein, pour aider tout ça. C'est ce qu'on appelle les lois eugéniques, qui ont lieu en 1948. Alors là, elles autorisent l'avortement, elles autorisent la stérilisation, elles encouragent la vente de produits contraceptifs naturels, forcément, la chimie, ça n'existe pas encore. Hein. Bon, mais toutes sortes de choses qui révolutionnent les Japonais. Vous vous rappelez, ça, ils le faisaient, mais ils le faisaient avant l'ouverture, c'est-à-dire ils le faisaient au XVIIe, XVIIIe siècle. Et là, on leur dit du jour au lendemain, et hop, vous refaites pratiquement tout en sens inverse. Bon, un peuple comme ça, on pourrait se dire, bah, ça va peut-être se faire, mais ça va prendre du temps. Non, ça va pas prendre du temps. Les Japonais répondent très vite, c'est pas compliqué. Le taux de natalité, il est de 34 pour 1000 en 1948. En 1957, il est de 17 pour 1000, divisé par 2. Bon, vous voyez que par conséquent, de ce point de vue-là, l'empereur, les autorités l'ont demandé, ils ont compris que dans la survie du Japon, ben, ça passe tout seul. Bon, là aussi, quelque chose surprenant. On n'a pas d'autre exemple à ce niveau-là, sous les d'un peuple, qui répondent en quelque sorte d'une manière aussi massive, donc à une demande quand même aussi intime, si on peut dire. Ça montre un peu l'exception japonaise par certains côtés, vous voyez. Bon, en tout cas, c'est aussi une de leurs forces également. Bon, dernière chose, une réforme de l'instruction. Vous vous rappelez, l'instruction, c'était pour former de bons fonctionnaires très obéissants à l'empereur, etc. On avait lu le serment et tout. Alors ça terminé, les Américains veulent une instruction à l'américaine, vous savez, c'était plutôt l'instruction à la française qu'on avait, hein, élite, etc. Donc ils veulent quelque chose de beaucoup plus démocratique. Ça flanque une pagaille, pas possible dans le système éducatif japonais. Ceci étant dit, bah, les Japonais, très vite, au bout de 7 à 8 ans, ils ont compris, il y a plein d'écoles supplémentaires, etc. Il y a des écoles qui valent pas grand-chose, d'autres qui valent un peu plus, etc. Donc on commence à inventer les cours du soir, bon, une part, pour aller plus vite. Et puis très vite, on va rebâtir un système élitiste, quoi, qui est encore en place aujourd'hui. Donc très rapidement, vous voyez, simplement, on aura un système élitiste avec des gens de mieux en mieux formés, mais qui auront cette fois-ci une tête bien faite. Et une tête qui réfléchira, pas qui obéira, vous voyez. Donc finalement, là encore, quelque chose d'assez positif, finalement, par rapport à ce qu'on pouvait penser au départ. Voilà, donc, en gros, ce que les Américains font du Japon, hein, globalement. Alors maintenant, bon, ben, ça, c'est entre 46 et 48. Sauf que tout change à partir de 48. Parce que, en 48, juste en face, il y a un certain Mao qui arrive. Et que pour les Américains, ben, ça fait une tache rouge supplémentaire sur la carte du monde. Et il n'y en avait pas besoin, vu déjà l'URSS, les démocraties populaires européennes, etc. Bah, les Américains, ils voient du rouge partout, hein, c'est clair. Bon, donc, à partir de là, ils commencent à voir les choses d'une manière très différente, donc vis-à-vis des Japonais. Parce que finalement, ils se disent quoi? Bah, le Japon, finalement, C'est un espèce de porte-avions naturel. C'est une base formidable pour nos troupes pour pouvoir justement réagir si besoin est, donc à d'éventuelles attaques ou bien contrer un peu l'influence communiste. Donc pour les Américains, le Japon, à partir de 48-49, devient de plus en plus un rempart évident face au communisme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire bien avant, un petit peu avant, mais il y a blocus Berlin à peu près en même temps, mais il faut quand même attendre encore un peu plus. Bon ben, pour les Américains, les Japonais vont devenir plutôt assez vite des partenaires, on va pas dire tout de suite des alliés, mais des partenaires face au communisme plutôt que d'anciens vaincus qu'il faut absolument écraser. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui change complètement. Alors du coup, c'est ça le plus rigolo, vous savez, les Américains sont très réalistes, hein. Donc le SCAP, le Supreme Command, enfin le commandement suprême de MacArthur, etc., qui jusque-là voulait écraser le Japon, hop, il tourne Kazakh à la vitesse grand V, et on fait en quelques années, non pas l'inverse, parce qu'on va pas revenir sur la démocratie, ça c'est fait, mais on va complètement changer la donne et faire que les Japonais puissent véritablement commencer à s'en sortir. Parce qu'en 48, je vous rappelle, ils ont toujours $60 par tête de pipe, hein, de richesse moyenne, ils ont toujours du mal pour manger, ils ont toujours une inflation de 5% par mois. Donc à partir de là, c'est quand même pas la joie. Donc on ne peut pas les laisser comme ça. Donc il faut faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est vite vu. Les réparations qu'ils devaient faire, elles sont réduites à 600 millions d'yens, comme le yen ne vaut rien, ça veut dire que les réparations, c'est zéro. Bon, comme ça, c'est vite fait, on n'en parle plus. Deuxième chose à partir de là, les contrôles américains sur les gouvernements, l'administration, oubliés. Hein. Maintenant, au contraire, on va chercher, même si, ils sont peut-être pas tout à fait... c'est pas tout à fait l'idéal par rapport à leur attitude, pendant la guerre, on s'en fiche, on va les prendre parce que c'est les meilleurs. Bon, donc, par conséquent, choisissez, messieurs les gouvernements des provinces, etc., des préfectures, ceux que vous voulez, pourvu que ça soit efficace, passons. Bon. La législation antitrust, vous avez compris, elle est très vite modifiée. Les monopoles, vous avez vu, 18 au lieu de 300 qui sont cassés. On laisse tomber donc les familles, là, le capital de famille est terminé, mais on laisse se reconstituer d'énormes conglomérats, d'énormes holdings, si vous voulez, financiers, etc., qui vont contrôler les principales entreprises japonaises à la place donc des familles autrefois, et on va leur changer de nom. Au lieu d'être des Aibatsu, ça devient ce qu'on appelle des Keiretsu. Mais si vous voulez, il n'y a pas une grosse différence. Sauf que les Keiretsu, c'est assez génial, parce que vous avez des quantités d'entreprises qui participent au capital de chacun des Keiretsu. Imaginez que vous en ayez une quinzaine comme ça, et vous auriez des flèches de capital à capital qui s'entrecroisent complètement. Ce qui veut dire que le Japon domine complètement le capital de toutes ces grandes entreprises, domine toute son économie, et il peut en faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, s'il veut accueillir des investissements étrangers, des actionnaires étrangers, il le fait. S'il veut pas, il peut tout verrouiller. En même temps, autre avantage, les actionnaires qui sont là sont des gens qui savent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire redresser le Japon. Est-ce que vous pensez qu'ils vont attendre de gros dividendes? Les dividendes, ils s'en fichent comme de l'an 40. Par conséquent, au lieu de toucher les dividendes, on met de l'argent de côté et on va investir. Vous voyez? Tout ça... Les Keiretsu, c'est quelque chose, si vous voulez, qui aurait pu plomber le Japon au départ, qui au contraire va lui donner pratiquement toute la force nécessaire pour très vite, dès que les Américains donneront le feu vert, rebondir à la vitesse grand V. Donc vous voyez, par conséquent, du point de vue économique, structurel, ça va tout changer. Les syndicats, malheureux, ça le temps, hein, parce que le mouvement ouvrier va être très vite repris en main. Les Américains se rendent compte d'un seul coup qu'ils ont un syndicat socialiste, un syndicat quasi-communiste, etc. Bon, c'est l'horreur. Hein. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on fait? Répression immédiate, etc. Et on va se retrouver avec des syndicats en théorie horizontaux, qui en fait vont redevenir verticaux, les fameux syndicats d'entreprise. Il n'y aura pas besoin de pousser beaucoup les Japonais, hein, le confucianisme n'est pas loin, hein. Vous savez, papa égale patron, hein, c'est pareil, hein. Et le chef égale papa égale patron, vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc à partir de là, on va se retrouver avec des syndicats plus modernes, un peu plus démocratiques, mais très liés à l'entreprise. Le patriotisme d'entreprise, il est là, à travers les syndicats, etc. Et donc on va avoir des syndicats, on va dire presque pour la galerie, horizontaux, hein, qui, une fois par an, au printemps, vont faire l'offensive de printemps, le Shunto, en disant, il faut qu'on ait des augmentations de salaire. Alors, c'est tout à fait codifié. Hein, ils se mettent, ils font une manifestation dans la rue, de préférence un jour férié, c'est-à-dire sans embête personne. Et puis, à partir de là, les patrons reçoivent le signal, en disant, effectivement, il y a un petit mécontentement, etc. Et à partir de là, on commence à discuter, mais tout est joué à l'avance. On va avoir 2-3% d'augmentation salariale en plus, ou bien un petit avantage supplémentaire, un bonus un peu. Pas du jugé vendu. Et puis, c'est reparti pour un an. Et pendant un an, on est tranquille. Donc, vous voyez, par conséquent, on va dire que le syndicalisme, ça va complètement changer. En plus, on va en parler de suite après, on commence à parler de bonus, on commence à parler d'emploi à vie, on parle de salaire à l'ancienneté, toutes sortes de choses qui font que, réfléchissez une seconde, vous rentrez dans une entreprise, Si vous êtes payé à l'ancienneté, vous n'avez pas intérêt à en sortir. Donc, fidélité à l'entreprise, loyauté à l'entreprise, patriotisme d'entreprise avec le plus fessénisme ambiant, ça va être vite fait. Hein. Donc, vous voyez, par conséquent, les syndicats sont pratiquement flanqués dans un entonnoir, mais je vous dis, en passant, il sait se faire sans trop de difficultés. Les seuls qui résistent, c'est celui qu'on appelle Sodomaï, qui est de type socialo-communiste. Lui, par contre, il est vite écrasé, hein, il devient un groupuscule pratiquement sans aucune importance. Bon, ce qui fait que les Américains, du point de vue démocratique, la question réglée, hein, bon, on n'en parle plus. Là, il y a quand même urgence, il y a Mao qui est en face. Hein. Donc, par conséquent, faut que ça bouge. Bon, et puis, c'est pareil, il reste quand même l'inflation, quoi. Le gouvernement japonais qui est là-bas, il n'arrive pas à s'en sortir, il y a de l'inflation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'inflation? Bon, on va trouver un plan. Vous vous rappelez, en Europe, on a le plan Marshall. Là, on va avoir le plan Dodge. Alors, pas confondre. Hein. Dodge, c'est un banquier, hein, et il est là uniquement pour la monnaie japonaise, pour les finances japonaises, pour taper contre l'inflation et détruire l'inflation avec le gouvernement japonais de l'époque. Bon. Il n'est pas pour autre chose. C'est-à-dire que les Américains vont vraiment très peu investir d'argent, rien à voir avec le plan Marshall. Nous, on se tape 25 milliards de dollars, les Japonais en auront 2. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Bon, mais simplement avec ces 2 milliards plus la politique qu'on leur fait faire, eh ben on va casser l'inflation par une politique à la fois d'austérité, donc d'investissement, etc. Et puis, très rapidement, les Américains font un cadeau absolument royal donc aux Japonais. Vous connaissez Bretton Woods, vous connaissez le système monétaire international qui est mis en place à ce moment-là, le dollar superstar, ça va de soi, mais les parités fixes. Parités fixes, donc, si vous voulez, le change, la valeur d'une monnaie par rapport au dollar. Bon, pour que l'économie japonaise puisse redémarrer, il faut que le yen soit donné, soit pas cher, pour que les produits japonais puissent, être vendus. On donne un taux de change de 360 yens pour un dollar. Les Japonais vont le garder jusqu'en 71. Ça, c'est un cadeau royal des États-Unis. Parce que les États-Unis, ils leur donnent un avantage comparatif absolument extraordinaire. Celui qui va la trouver saumâtre, c'est Nixon, et en 71, il va faire le choc Nixon, disant « Maintenant, ça suffit. Hein. Vu ce que vous nous avez taillé comme croupière, terminé. Maintenant, 360 yens pour un dollar, il faut au moins diviser par deux. » Bon, vous voyez, donc, par conséquent, là, c'est un cadeau royal. Donc, avec ces mesures-là, et le plan Dodge, c'est uniquement ça, eh ben, ça suffit. Le plan Dodge, il est réussi. L'inflation, elle est détruite par la même occasion. Et puis, il n'y a plus qu'à redémarrer, quoi. Et donc, du coup, comme le Japon reçoit quand même ses 2 milliards, l'État japonais, lui aussi, il va intervenir. Mais intervenir pourquoi? Il faut reconstruire plus vite. Donc, il va s'occuper des infrastructures, un peu comme pour la magie, s'occuper des infrastructures de communication, des ports, etc. Bref, créer les conditions à partir desquelles la reprise pourra se faire sans trop de difficultés. Donc, vous voyez, les Américains, de ce point de vue, ont quand même sacrément bien joué, parce qu'on peut dire qu'ils n'ont presque rien dépensé pour le Japon, par rapport à ce qu'ils ont dépensé chez nous, quoi. Les Japonais se sont fort bien sortis, on ne peut pas dire tout seul, il ne faut pas pousser, mais en tout cas, ils ont eu besoin de moins d'aide de relance que nous avons eu. Bon, de ce point de vue-là, ils ont finalement été plus autonomes. Bon, il y a une dernière chose qui reste, ce qui est fantastique pour les Japonais, la chance de leur époque, c'est la guerre de Corée, quoi. Alors là, il y avait déjà Mao en face, mais lui, il se tient tranquille quand même, hein. Si on peut dire, il y a Taïwan, d'accord, mais on se rend bien compte que Mao n'est quand même pas suffisamment fou pour traverser le détroit et puis faire une guerre contre les États-Unis, donc on sait que ça va pas bouger. Par contre, pour la Corée, Corée du Nord, Corée du Sud, c'est autre chose. L'éclatement de la guerre de Corée en juin 50, pour le Japon, c'est une manne céleste, quoi. Les Américains, rappelez-vous, ils en prennent plein la figure, les Américains. Hein. Lorsque la Corée du Nord attaque sur une grosse bêtise, rappelez-vous, des Américains. Hein, le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères qui passe, et qui dit simplement, la Corée du Sud, c'est pas une ligne rouge. Il fallait pas en dire plus, hein. Si c'est pas une ligne rouge, on peut y aller. Donc, ils y sont allés. Résultat, les Américains qui s'y attendaient pas, 3 divisions déblayées en rien de temps. Et à partir de ce moment-là, il reste, rappelez-vous, un tout petit coin. Donc, dans la Corée, un tout petit réduit. Alors là, les Américains peuvent pas supporter de perdre, ça paraît évident. Imaginez la perte de face et tout. Ils amènent leur gros cuirassé. Ils traient une muraille de ferraille, donc d'acier, si vous voulez, tout autour de la zone en question. Et là, c'est fini. Les Coréens du Nord, ils avancent plus. Sauf que, on est au bord du désastre. On a besoin de quoi? De tout refaire, de reconstituer l'armée américaine. Le Japon, là, c'est la base idéale. Donc, du coup, les Américains, ils vont faire venir des choses, bien sûr, des États-Unis. Mais c'est trop loin, c'est trop long. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait fabriquer sur place tout ce qu'on a besoin. Et on y paye, mais alors, royalement. Donc, les troupes américaines, elles ont un chéquier sans fond, si vous voulez. Donc, elles peuvent payer absolument n'importe quel prix. 2 fois, 3 fois, 6 fois le prix. On s'en fiche, pourvu que ça soit efficace et qu'on puisse reprendre la Corée du Sud, voire un peu plus. Rappelez-vous MacArthur qui va tenter, à un moment donné, de vouloir atomiser un peu la partie chinoise, etc. Bon, là, c'est pas notre boulot, on n'en sait pas à parler ici. Mais ceci étant dit, donc les Japonais se retrouvent d'un seul coup sous une manne de dollars absolument colossale. Alors, pour eux, il y a un mot magique, deux mots magiques, ça s'appelle « special procurements », c'est-à-dire les factures spéciales, si vous voulez, que les troupes américaines pouvaient faire au Japon. Bon, bah, à partir de là, c'est extraordinaire. Les entreprises japonaises réalisent des profits colossaux, d'autant plus qu'elles payent toujours les Japonais avec, par des lance-pierres, parce qu'il y a des augmentations de salaire, les offensives de Shunto mettent très très bas. Donc vous imaginez les profits qu'elles peuvent faire, c'est quelque chose de colossal. Vous rappelez, Keiretsu, les profits, on devrait les partager entre les actionnaires. Tintin, les actionnaires, ils verront rien. Hein. Ça sera fait pour investissement, pour etc., et être encore plus fort, encore plus puissant. Bon, bah, c'est le début de cette espèce. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure d'amorçage de la pompe. Bah, c'est ça, l'amorçage. C'est les special procurements. Bon, ça commençait déjà avant, mais alors là, c'est le déluge, quoi, si vous voulez, par rapport au reste. Alors bon, ben, à partir de là, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Les Américains, ben, ils sont pas fous. Non, c'était pas ça. Ben, tant pis, j'ai oublié cette photo. Bon, les Américains sont pas fous. Qu'est-ce qu'ils font, par conséquent? Eh bien, ils décident de faire la paix avec les Japonais. Ça paraît logique. Donc, si vous voulez, en 1951, on signe le fameux traité de San Francisco. Le Japon signe la paix avec tout le monde, c'est avec l'Union soviétique, puis l'Union soviétique ne veut pas en entendre parler. Comme les Américains, l'Union soviétique, ils ne peuvent pas l'avoir à cette époque, compte tenu de ce qui se passe en Corée, ils disent, eh ben, tant pis pour les soviétiques, on signe la paix séparée avec les alliés occidentaux, adjugés vendus, donc nous on signe aussi, etc. Bon, traité de San Francisco, le Japon redevient souverain, les États-Unis n'occupent plus le Japon, mais ils restent là, hein, forcément, puisque la Corée c'est juste à côté. Simplement, au lieu d'être une force d'occupation, ben, c'est une force militaire alliée, tout bêtement. Alors rappelez-vous que les Américains se servent bien, hein, quand même. Hein. Ils s'oublient jamais, hein, faut quand même pas rêver, hein. Ils sont gentils, mais bon, malgré tout, ils savent bien y faire. Okinawa, les trois quarts d'Okinawa appartiennent quasiment aux Américains. Ils vont faire des bases gigantesques. Elles y sont toujours. Hein. Et puis, vous avez d'autres régions dans le Japon, enfin bref. De toute façon, les Japonais ne peuvent pas dire non, ils sont d'ailleurs très contents, etc., on n'en parle plus. Bon ben, faut être logique, les Japonais, en 1955, ils rentrent dans le FMI, ils rentrent dans le GATT, ils rentrent à l'ONU, ils rentrent dans le COCOM. Vous savez, le COCOM, c'est cette commission qui est chargée de surveiller que les exportations occidentales n'aillent pas renforcer le potentiel soviétique. Bon, ben, ils font partie du COCOM, je veux dire, on les accueille partout, donc il n'y a pas de problème. Bon ben, ça y est, le Japon est redevenu un pays fréquentable, un pays à niveau, etc. Bon, ben, à partir de là, il reste une dernière chose, remettre à niveau le Japon indépendant au sens strict du terme. Alors là, le gouvernement japonais, bien sûr, ben, il reprend du poil de la bête, hein, cette fois-ci, ça paraît logique, il est devenu de nouveau autonome par rapport à un proconsul qui n'existe plus. Bon, ben, du coup, il y a un nouveau slogan, hein, début des années 50, « Développer l'économie nationale pour rattraper l'Occident ». Il ne faut pas être plus clair. Hein. « Développer l'économie nationale pour rattraper l'Occident », ça veut dire quoi? Ben, c'est le slogan Meiji remis au goût du jour, ni plus ni moins. Bon, rattraper l'Occident, ben, comment faire pour rattraper l'Occident? Eh bien, en gros, c'est comme on a fait Meiji sans le volet militaire. Tout l'aspect militaire est gommé. Les Japonais ont très bien compris que jamais plus ils ne seraient une puissance militaire. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, l'article 9 de la Constitution interdit aux Japonais d'avoir une armée. C'est les forces d'autodéfense qui doivent, bon, bah, justement, garantir la sécurité du Japon, intérieur, vaguement extérieur, si on veut. En réalité, le Japon, il confie la défense extérieure du pays aux Américains, par sa constitution. Et ça a duré très longtemps, ça a duré pratiquement jusqu'au début des années 70. Hein. Avec pourquoi, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Maximum des dépenses militaires pour les forces d'autodéfense, 1% du PIB. Maximum. Ça veut dire que ça sera 0,5%. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça donne. Nous, avec notre bombe atomique, de Gaulle, etc., 3, 4, 5% du PIB. Eh bien, les 3, 4, 5% du PIB que les Japonais ne mettent pas dans les forces d'autodéfense, ils vont le mettre dans l'économie. Donc ça, vous imaginez la manne que ça donne en investissement pour la recherche, pour etc. Bon, ben, c'est un avantage. Alors, bon, ben, tout ça, première chose, donc développer l'économie nationale pour rattraper l'Occident. Et puis, surtout, deuxième mot-clé, le retour du Japon. En gros, le pari, c'est que le Japon soit capable d'être parmi les tout meilleurs du monde, économiquement, financièrement et commercialement, bah dans les 20 années qui suivent. Bon, ça va marcher, quoi. Il n'y a pas 36 solutions. Alors, pour ça, comment y arriver? Je vous ai dit, on avait presque une nouvelle ère Meiji. Retour de l'État. Un retour de l'État extrêmement puissant jusqu'en 1955. De 48 à 55, l'État japonais, il est partout. Donc, un dirigisme très fort. Le symbole du dirigisme, c'est quatre lettres, MITI. Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Reconstruction. Le fameux MITI qui va ensuite, faire florès jusqu'à 2003. En 2003, on va le supprimer pour changer une lettre. On va mettre Meti au lieu de Miti. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que là, l'État japonais, il a quand même un petit peu perdu de son aura. Donc, on s'est dit, pour montrer qu'il y a un changement, on va changer une lettre, quoi. Bon. Bon, j'exagère un peu, ça a changé un peu plus que ça. Mais le Miti, c'est vraiment, si vous voulez, l'outil emblématique de l'État japonais, quoi. Et le monde va connaître pratiquement ça. Bon, ben, le Miti, qu'est-ce qu'il fait? Trois stratégies. Le Miti, donc, l'État. D'abord, il désigne les secteurs prioritaires de développement. L'industrie lourde, la sidérurgie, la métallurgie, le charbon. Bon, et il leur affecte les ressources propres, c'est comme ça. Ça, c'est prioritaire, hop, on y va. Deuxième chose après, bah, encourager les investissements étrangers. Oui, mais attendez, juste dans les endroits où on les autorise, et pas trop important, parce qu'il ne faut absolument pas que le Japon gagne son indépendance, d'une part, mais pour tomber sous la dépendance du capital américain, ou autre. Donc, par conséquent, donc, on limite très facilement, et on accepte les investissements étrangers, uniquement dans les choses qui nous intéressent, uniquement en retard, et si possible, tant qu'à faire, des transferts de technologie. Parce que comme ça, ça permet d'aller plus vite et d'aller plus loin. Vous voyez, par conséquent, donc là aussi, bon, politique de promotion industrielle, bon, ça paraît évident, avec une idée très simple qui est de faire travailler, si on peut dire, je dois avoir ça quelque part, attendez, je... oui, mais c'est plutôt ce que je voudrais, c'est ça. Voilà, quelques chiffres de la croissance économique. Je pense qu'il y a un word rapide. Et vous allez voir tout de suite ce que ça va donner. Bon, donc vous voyez la haute croissance, par exemple, ici. Bon, pour vous donner une idée, hein, vous voyez ce que ça donne. En 1950, le PNB du Japon, c'est à peine un tiers de la France. En 63, c'est la même chose que l'Italie. En 67, c'est la même chose que la France. En 68, c'est plus que nous. Vous voyez, par conséquent, la vitesse avec laquelle ça va aller. Bon, alors, à partir de là, bien sûr, avant d'arriver à ça, ben, il faut passer à ça, c'est-à-dire refaire du Japon une grande puissance industrielle moderne. Alors, pour ça, c'est la fameuse théorie du vol d'oie sauvage, ou ce qu'on appelle le schéma d'Akamatsu, qui date de 1937, bon, qui a été remis au goût du jour, etc. Alors, voyez ce que c'est. Eh bien, comment est-ce qu'on peut arriver à, disons, trouver une nouvelle industrie japonaise qui soit à la fois moderne et qui fasse tout ou presque en même temps, enfin successivement et relativement en même temps. C'est ce qu'on appelle la remontée des filières. Alors, vous voyez, lorsque vous décidez de faire fabriquer quelque chose, ben, la première phase, c'est importer un produit de l'étranger que vous ne fabriquez pas. Vous n'êtes pas assez bon pour le faire. Bon, à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Vous payez l'importation. Hein. Il faut bien aussi voir qu'on dit toujours les Japonais, c'est des copieurs et des voleurs, à cette époque surtout. C'est pas faux, mais on en a fait autant, hein. Bon, donc faut pas rêver. Donc, je veux dire, pas beaucoup plus que les autres. Souvent plus malins, hein. Ils ont fait un tour chez Michelin, donc, avec des chaussures spéciales, avec des semelles spéciales. Et puis, donc, on ramasse les poussières dans les ateliers qu'on visite. À partir de là, on analyse les poussières, on voit quelle est la gomme. Vous voyez, ça, bon. Alors, ça existe, bien sûr. Mais pas plus que nous. Donc, ils achètent, ils importent, et ils substituent sur le sol nippon. C'est-à-dire que, après avoir acheté, ils mettent des barrières protectionnistes, si vous voulez. Donc, c'est ce qu'on appelle la substitution aux importations dans un premier temps. Et à partir de là, si vous voulez, ils vont essayer de produire chez eux. Vous voyez? Ensuite, la production intérieure, ben, ça marche. Le marché intérieur, il en prend plein la figure, parce que c'est des rossignols, quoi, la plupart du temps. Hein. C'est pas génial, quoi, c'est clair. Bon, mais si vous voulez, il achète, parce que d'abord, il y a les barrières douanières. Puis même, quand les Américains râlent un peu trop, eh ben, on dit à la population, achetez japonais. Alors, on ne le dit pas d'une manière aussi brutale, mais je veux dire, à un peuple à qui on dit vous faites deux enfants en moins à chaque fois, et qu'il accepte, si vous dites achetez japonais, il n'y a pas de souci, ça passe. Hein. Bon, donc, résultat des courses, ben, il n'y a pas de problème. Hein. Patriotisme d'achat, les importations baissent, etc. Ensuite, fin des importations, là, on est devenu bon. On est même devenu meilleur, en fait. Parce qu'on a eu le temps non seulement de faire aussi bien, mais surtout de faire mieux. L'élève qui dépasse le maître, enfin bon, vous connaissez. Bon, donc, résultat des courses, après, le marché intérieur est saturé. Puis alors là, on a vendu très très cher aux Japonais. Donc imaginez les profits qu'on a fait. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on fait alors? On se lance à l'exportation, avec un prix bien plus bas. Attention, c'est pas du dumping, parce qu'on baisse les prix sur le marché japonais, en même temps. Sauf qu'avec les profits qu'on a fait, on peut écraser ce qui est en face. Vous voyez, et récupérer des quantités de parts de marché. Bon, donc à partir de là, on conquiert les marchés, les profits alors arrivent, parce qu'on va vendre beaucoup plus, etc. Puis quand on aura conquis le marché, on augmente les prix, pas fou quand même. Bon, donc tout ça, ça rapplique. Et puis le phase 4, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, la phase 4 est un peu trop moderne, c'est la phase actuelle, enfin actuelle, il y a 20-30 ans. En fait, qu'est-ce qu'on fait après? Avec cet argent qu'on a fait, on a commencé par exemple par du textile. Parce que c'était plus facile, parce que ça ne demandait pas trop de capitaux, etc. Cet argent permet d'investir. Avec l'augmentation d'éducation d'une population qui est déjà bien éduquée, on peut passer à quelque chose de plus compliqué, la métallurgie. De la métallurgie, on peut passer ensuite, avec la même procédure, à l'automobile. De l'automobile, on peut passer à l'électroménager, l'électronique, etc. C'est ça, la remontée des filières. Bon, et quand, finalement, après, ou le vol d'oies sauvages, parce que vous passez d'une oie à l'autre à côté, mais le niveau au-dessus. Vous savez, les oies sauvages qui sont en formation, c'est exactement la même chose, on passe de l'une à l'autre. Et puis, quand il y en a un on arrive à la phase 4, quand il y a un produit qui vraiment ne rapporte plus rien, on ne va quand même pas s'embêter à fabriquer à perte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va délocaliser. Donc, à partir de là, on délocalise les effets à pied et coups de manœuvre. Alors, les futurs dragons, les futurs bébés tigres. Et c'est comme ça, eux, qui vont commencer leur remontée des filières et devenir les nouveaux pays industrialisés d'Asie. Merci le Japon. En attendant, il va se faire payer, le Japon, c'est clair. Bon. Donc, vous voyez, par conséquent, la remontée des filières, c'est tout bêtement ça. Bon, simplement, si vous voulez, les Japonais, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent les parties les plus nobles des produits qui commencent à être concurrencés, et puis le reste, ils font travailler ailleurs. Alors, du coup, vous avez dans l'Asie, une augmentation donc de l'industrialisation progressivement. Bon, c'est ce principe, si vous voulez, qui est fait. Alors, ce principe qui est fait, avec encore une dernière chose pour le MITI, c'est payer, l'État paye l'information. Alors, vous avez de la recherche, on va dépenser beaucoup pour la recherche, et puis on va dépenser aussi beaucoup pour l'information. Alors, vous avez un système qui est mis en place par le MITI qui s'appelle le JETRO. Ça veut dire Japan External Trade Organization. Ça veut dire, si vous voulez, l'organisation des marchés du commerce japonais à l'extérieur. C'est payé par l'État japonais. Et son boulot, c'est de chercher dans tout ce qui est dans le monde, comme brevets qui peuvent être intéressants, qu'on peut acheter, prévoir un peu ce qui va se passer. Vous voyez, faire toute une recherche, qu'ensuite on fait passer au Keiretsu, etc., et aux grandes entreprises japonaises, et qui pourront cibler comme ça les produits qui sont les meilleurs, ceux qui ont le plus d'avenir, etc. On joue à la fois pour le marché intérieur et en même temps pour conquérir l'extérieur. On ne peut pas faire autrement que de conquérir l'extérieur. Comment on peut produire si on n'a pas d'énergie sur son sol, si on n'a pas de pétrole, etc. Il faut bien dégager des excédents. Alors maintenant, une chose quand même qu'il faut bien comprendre, la puissance japonaise ne se fait pas d'abord aux dépens de l'extérieur. Elle travaille avec l'extérieur, le marché, le commerce extérieur est important, mais ce qui est d'abord important, c'est le marché intérieur. C'est se constituer une base industrielle, etc., extrêmement puissante à l'intérieur, et c'est quand le marché intérieur dans tous les domaines sera saturé, qu'à ce moment-là, il va bien falloir qu'on aille vers l'extérieur. Et si vous regardez un petit peu, c'est seulement dans les années 70 qu'aux États-Unis, on commence à parler de Japan bashing, de ce Japon qui conquiert le monde. Avant, non. La balance commerciale japonaise est déficitaire jusqu'au milieu des années 60. Parce qu'il faut qu'ils s'équipent, etc. Vous voyez? Donc, là aussi, faut pas voir le Japon comme cette espèce de prédateur. Oui, c'est vrai dans les années 70, à partir de... Mais avant, c'est le marché intérieur. Le marché intérieur fournit, on va dire, les 4/5 pratiquement de la croissance japonaise de ces années-là. Donc, vous voyez, par conséquent, donc quelque chose d'assez original. Autre chose originale, pour essayer d'arriver à tenir à peu près le temps. Autre chose originale, la politique. Vous avez entendu, je pense, une expression, triangle de fer. Triangle de fer ou triangle d'airain. Vous savez, A-I-R-A-I-N, le vieux métal, etc. Bon, qu'est-ce que c'est que le triangle de fer? Trois côtés, bien sûr. Premier, l'État. Deuxième, les entreprises. Troisième, l'administration pour l'essentiel. C'est-à-dire, par conséquent, un triangle qui fonctionne, on va dire, en circuit fermé, en coopération extrêmement importante. L'État connaît bien les entreprises qui sont représentées par le syndicat patronal qui s'appelle le Kaidanren, et ils gèrent, pour l'essentiel, le Japon ensemble. Et lorsque une personnalité de l'État termine son mandat, il va pantoufler dans le secteur privé en remerciement, si vous voulez, de ses bons services. Et puis, de temps en temps, c'est quelqu'un du patronat qui va prendre les rênes d'une partie de tel ministère, etc. Donc, si vous voulez, on vit un peu en circuit fermé, et avec l'administration qui contrôle tout ça, qui est chargée, si vous voulez, qui est le troisième côté du triangle, qui est chargée de mettre en application tout ça, et qui en reçoit les bénéfices, ça marche parfaitement bien, à condition qu'on ait un parti politique qui soit suffisamment stable et qui soit pratiquement toujours là. Coup de peau. En 1955, c'est la création de ce qu'on appelle le Parti libéral démocrate, qui est la fusion de deux partis qui ont été créés à partir de 1945-46, un parti libéral et un parti, disons, de centre-droit, et qui vont fusionner. L'un va être un peu plus, le parti libéral, ben, un peu plus sur le commerce, sur le, si vous voulez, la puissance économique, et puis l'autre sera un peu plus sur le social, par exemple, pour faire passer un peu la pilule aussi aux Japonais, à qui on demande évidemment de travailler beaucoup pendant le même temps. Bon ben, ce parti libéral-démocrate, il va rester au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, sauf un petit moment pour cause de scandale, donc dans les années 70, et puis depuis 2009, bon ben, c'est un autre parti qui a pris le pouvoir. Donc là aussi, c'est l'idéal. C'est toujours les mêmes qui sont là. On les connaît, on leur fait confiance, on est entre soi. C'est idéal, quoi. Donc vous voyez, par conséquent, le pouvoir politique, il tient tout. Hein, le pouvoir économique, etc. Donc les choses sont relativement intéressantes là aussi. Bon, il y a une dernière chose encore pour finir. À partir de 55, bah, rappelez-vous, le monde, il s'internationalise quand même. Donc, un État qui fait tout, c'est quand même un peu gros. On comprendrait plus. Rappelez-vous, si vous prenez la France, De Gaulle, il intervient massivement, si vous voulez, donc pendant quelques années, puis après, il calme le jeu, parce que bah, il faut bien qu'on s'ouvre. L'Europe, c'est fait pour ça, entre autres. Bon. Donc, par conséquent, là, c'est pareil. On ne peut pas rester avec un État aussi puissant. Donc, l'État va commencer à s'effacer derrière les entreprises privées et le syndicat patronal. Mais compte tenu du triangle de fer, ben, ils continuent à tirer les ficelles ensemble, si on peut dire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'État va s'arranger pour que les entreprises soient toujours aidées par lui. Alors, de quelle façon? Eh bien, au niveau de la protection sociale. La protection sociale dans nos pays, elle augmente fortement à partir de 45, etc. Pas au Japon. Au Japon, on donne un minimum de protection sociale. On donne un minimum de retraite, on donne un minimum de protection pour la maladie, etc. Surtout sous l'impulsion de la partie libérale, donc du parti libéral-démocrate. Mais c'est tout. On essaye systématiquement, comme dit l'État japonais d'époque, on pratique l'inaction sociale. Parce que si les gens estiment qu'ils ne sont pas assez couverts, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont épargner. Ils vont épargner beaucoup. Et cette épargne, elle va aller où? Ben, dans les caisses d'épargne, à la poste, hein, parce que le Japonais, il épargne chez lui. Ben, à votre avis, où les entreprises qui ont besoin de s'endetter à la vitesse grand V pour se moderniser et investir vont-elles puiser? Là-dedans. Et par conséquent, l'endettement étranger, ben, ça sera que minimal. Donc, autonomie, indépendance japonaise. Comme maintenant, vous avez tous vu, 240% de dette du PIB, hein, par rapport au PIB. Imaginez qu'on ait ça à 80%, tout le monde fait des bons. Bon, alors 240%. Oui, mais 92% de cette dette, elle est interne au Japon. Bon, bah, par conséquent, les agents de notation, ils peuvent bien dire des double A, et ainsi de suite. Le Japon, ils s'en fichent. Bon. Bah, si vous voulez, ça commence à cette époque-là. Tout simplement parce que c'est dans son épargne qu'il puise. Donc, les Japonais ayant la frousse du lendemain, et puis ayant des dépenses à payer cher, bah, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils en passent par là. Donc, ils font de l'épargne. Donc, il y a une masse d'argent colossale. Vous savez, les livrets d'épargne, c'est pas payé bien cher. Vous vous rendez compte, la facilité pour se financer pour les entreprises, c'est extraordinaire. Bon, en plus, le taux d'épargne japonais, à l'époque, il est notre taux d'épargne actuel, mais un peu plus, il est de 23%. Pas mal, quand même. Bon, donc, à partir de là, il y a de quoi puiser sans difficulté. Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ben après, bien sûr, pour expliquer, évidemment, la réussite, c'est les entreprises japonaises. Ça va de soi. Alors, les entreprises japonaises, ben, il y a plein de choses qui sont à voir. Bon, alors, d'abord, regardez un peu en l'espace de quelques années, le redémarrage, vous voyez, entre 47 et 55, vous voyez à peu près ce que ça donne comme pente, hein, d'accélération, hein. Autant dire que, bon, c'est assez abrupt, hein, mais dans le bon sens. Ben, vous avez les entreprises. L'entreprise japonaise, ben, vous voyez, elle reprend ce que je vous disais, ce qui s'était fait pendant la guerre. Une grande entreprise qui fait travailler des quantités de filiales, etc. Bon, et qui, par conséquent, bah, imaginez qu'on ait un petit problème économique. Il y a de temps en temps, c'est dans la grande croissance, il y a de temps en temps des mini-récessions. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la croissance, mais un peu moins forte. Bah, dans ce cas-là, on a des problèmes. Bah, sur qui va peser le problème? Pas sur la grosse entreprise, mais sur les filiales. Les petites entreprises, c'est ce qu'on appelle l'hydrodon anti-crise. Et ça permet, par conséquent, à la puissance des grandes d'être toujours équivalente. Les grandes entreprises qui ont des gens qui sont super pointus, ben, si c'est chez nous, l'entreprise est touchée, on va en virer un certain nombre. Et l'entreprise les récupérera peut-être pas après, même si elle revient en bonne santé. Au Japon, pas de problème. Les meilleurs, ils vont rester. Pourquoi? Parce que ils vont avoir ce qu'on appelle l'emploi à vie. Idiot. Ça n'a jamais existé, l'emploi à vie. ça veut dire emploi stable. Ça veut dire qu'on ne vous vire pas. Ça ne veut pas dire que vous allez rester dans le coin. Vous êtes à Tokyo, bon ben, on a des problèmes, ben vous allez partir, si vous voulez, du côté d'Hiroshima. Parce que là, on a du boulot pour vous, puis vous reviendrez à Tokyo après. Mais vous n'êtes pas viré. Vous gardez votre salaire. Vous aurez des heures sup en moins, un petit peu de bonus en moins, mais vous restez. Et lorsque ça redémarre, ben vous n'êtes pas parti voir ailleurs. Et vous n'avez pas perdu vos avantages. Vous restez un salarié loyal. Vous avez accepté de partir, de vous serrer un peu la ceinture. Mais en attendant après, ben vous allez bénéficier de votre retour. Vous toucherez de plus, vous aurez plus de bonus, etc. Et votre salaire continuera à augmenter. Ben, la loyauté face à l'entreprise, c'est ça qu'on attend du salarié. Donc, loyauté dans les deux sens. Le salarié doit la loyauté à l'entreprise, mais l'entreprise doit garder son salarié. Ça marche pour 40% des salariés japonais, ceux qui sont dans les grandes entreprises, celles-là. Les autres, évidemment, ben oui, ils prennent, forcément, il faut bien qu'il y en ait qui trinquent en bout de ligne. Bon, donc, si vous voulez, vous avez deux salariats au Japon, l'aristocratie, ceux-là, et puis les autres, ben, ma foi, les sous-fifres, si on peut dire. Ceci étant dit, ils ne s'en plaignent pas, parce que malgré tout, ils savent que, là aussi, les grandes entreprises n'ont pas intérêt à tuer leurs sous-traitants, sinon après, il faudra en trouver d'autres. Donc, si vous voulez, ça fait une espèce de pyramide. Donc, simplement, plus on est en bas, plus on serre la ceinture. Vous voyez ? Mais c'est quelque chose qui marche bien. Et surtout à cette époque-là où les récessions sont relativement peu importantes et quasi inexistantes. Bon, si on va un peu plus loin, regardez aussi la carrière d'un salarié dans l'entreprise. Vous venez de l'université, du lycée supérieur, du lycée inférieur, si vous voulez, pour l'essentiel. Un lycée supérieur, vous voyez, c'est à peu près IUT, BTS, etc. Hein ? Bon, ben, tout le monde commence par le bas. Il n'y a pas 36 solutions. Et rien à voir avec nous. Nous, c'est l'université, les grandes écoles, ils commenceraient là, hein, la direction. Et les autres commenceraient ici, là. Tout le monde commence en bas. Bon, en sachant que si vous sortez d'une grande école de Toda, si vous voulez, à Tokyo, vous n'allez pas rester au bas longtemps, hein, ça c'est clair. Mais vous allez passer quand même comme ça. Et vous aurez, à cette époque-là, quand vous serez au sommet comme directeur, on appelle ça un cacho, un K-A-C-H-O, quand vous serez au sommet, vous n'aurez jamais qu'un salaire 6 à 8 fois supérieur à celui qui est en bas. Pas si important que ça. Par contre, il y a les bonus derrière. Hein. Bon, mais bon, malgré tout. Et regardez ce que vous faites. Vous passez par tous les côtés. Commercial, production, humaine. Vous auriez l'entreprise française, surtout à l'époque, des murs entre chaque fonction. Pas du tout ici. Donc, vous êtes interchangeable. C'est ce qui vous permet d'avoir un emploi, entre guillemets, à vie. Vous voyez ? Et c'est ce qui assure la fidélité des employés par la même occasion. Vous voyez ? C'est évident. Vous continuez, alors ben voilà un des inventeurs de l'emploi à vie, c'est le patron Matsushita, je ne me rappelle plus son nom. Bon, mais c'est un de ceux qui a vraiment fait le Japon moderne, plus que Toyota, plus que, si vous voulez, Sony. Bon, ben voilà, vous voyez, quand il y a une récession, bon, ben la grande entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous envoie des placements de personnel vers une filiale. Vous voyez, ailleurs, on vous garde. Bon, celle-ci, ça marche toujours aujourd'hui, hein. Bon, plus difficilement, parce que comme... Oui. Alors, départ anticipé des femmes, oui. Alors ça, c'est un peu mal fichu, pour la bonne et simple raison. Oui, parce que, si vous voulez, les femmes, en fait, là, le schéma date à peu près d'il y a 20 ans. Bon, et donc, si vous voulez, les femmes sont déjà plus nombreuses. Dans la période de haute croissance, les femmes, je ne vais pas dire qu'elles sont une existence, mais pas loin. C'est-à-dire qu'en gros, une femme japonaise, à cette époque-là, si à 25 ans, vous n'êtes pas marié, ça commence à faire beaucoup. À 29 ans, que vous soyez marié ou pas, vous êtes viré. Donc, par conséquent, si vous voulez, et vous n'aurez de toute façon que des postes subalternes. On n'a pas franchement besoin de vous pour l'instant. Donc là, c'est plutôt maintenant où là, on a besoin des femmes parce qu'il y a eu vieillissement de la population. Voilà. C'est ça. Et puis, ils s'occupent de la maison, puis de gestion de la famille, enfin bref, etc. Mais à cette époque-là, les femmes n'ont aucune égalité avec les hommes du point de vue du travail, hein, ça c'est clair. Donc là, si vous voulez, c'est plutôt les départs anticipés pour les hommes, mais pas pour les femmes. Ah, parce qu'il y en a très peu. Elles sont parties déjà, les femmes, la plupart du temps, parce qu'elles sont maîtresses de maison, etc. Bon. Donc, c'est très rare qu'on ait des femmes à cette époque-là qui fassent vraiment, donc, quelque chose d'important. Alors, après, ben, vous avez différentes... c'est les années de croissance, etc. Simplement, ce que je voudrais quand même vous montrer encore, hein, pour vous montrer pourquoi ça marche bien, c'est aussi l'invention de ce qu'on appelle le toyotisme. Hein. Alors, le toyotisme, ça s'invente aussi dans les années 50. C'est toujours pareil, c'est dans l'entreprise. Bon. C'est ce qu'on appelle la méthode Kanban. La méthode Kanban, c'est Kanban en japonais, ça veut dire étiquette. Bon. Et en réalité, il s'agit, en fait, si vous voulez, de limiter au maximum les stocks. C'est le fameux just in time. Hein, juste à temps, etc. Attention, c'est Toyota qui le fait en premier. Ça se fait au début des années 50. Et ça ne se généralisera qu'au milieu des années 60. Et encore. Hein. Mais, si vous voulez, si on ne choisit pas le toyotisme au total, on choisira quand même pas mal les 5-0 en question. On appelle quelquefois les 5-0 olympiques. zéro panne et fiabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de prévoir la panne avant qu'elle se produise. Vous voyez? Ça suppose des gens vachement qualifiés. Parce qu'il faut que vous entendiez le cling qui fait que votre machine elle va sauter. Bon, ben vous l'arrêtez préventivement, et ça durera moins longtemps pour la réparer que si elle saute. Bon, donc si vous voulez, il y a plein de choses. Bon, le zéro défaut, bon, clair. Zéro délai, ben, changement d'outil rapide, responsabiliser l'ouvrier, l'inverse du taylorisme. Vous rappelez-vous un certain donc Céline qui disait « on a besoin de chimpanzés », etc. Bon, vous réfléchissez pas. Là, par contre, vous réfléchissez. Et puis, zéro papier, ben, simplification administrative. Zéro stock, ben, c'est là l'étiquette. Parce que chaque fois qu'on prend quelque chose dans le stock, on sort une étiquette qui passe ailleurs. Alors tout ça aujourd'hui c'est informatisé, mais pas à l'époque. Et à partir de là, ben, quand il y a suffisamment nombre d'étiquettes, tac, on déclenche l'arrivée, si vous voulez, du produit nécessaire pour remplacer et continuer à travailler. Juste une idée, avec ce système-là, en 1967 à peu près, une entreprise automobile au Japon, elle a un jour de stock devant elle. En France, à l'époque, on en a 22. Vous voyez, par conséquent, la différence, vous imaginez ce que ça coûte, hein, en rotation, en immobilisation du capital, etc. Bon, par conséquent, tout ça, bon, ça change. Alors ça, évidemment, en plus, si on peut faire zéro transport, zéro surproduction, bah, c'est mieux. Bon, enfin, là, après, c'est les deux zéros complémentaires. Donc, vous voyez, par conséquent, il y a aussi cet aspect-là qui vient un petit peu complexifier tout ça. Bon, du coup, bah, c'est pas étonnant, vous voyez, Jim Boom, Iwato Boom, Boom des Jeux Olympiques, croissance de 7 à 10 %. Nous, en France, rappelez-vous, on a presque le ruban bleu en Europe, on est à 5,5. Bon, ben, eux, ils font quasiment le double, quoi. Donc, par conséquent, on a tout à fait quelque chose d'autre. Encore, j'oubliais une chose, pareil, on parlait de toyotisme ou de taylorisme. L'ouvrier japonais, ou l'employé japonais, il n'a pas du tout la même place dans l'entreprise que nous avons, nous, dans nos entreprises à l'époque. Pour la bonne et simple raison qu'il appartient à ce qu'on appelle des ateliers, et pas seulement dans le toyotisme. Il n'y a pas besoin d'être chez Toyota pour être dans des ateliers. Des ateliers, c'est-à-dire un groupe d'hommes qui travaillent ensemble. Et ils pratiquent ce qu'on appelle le ringit, c'est-à-dire en fait l'étude de ce qu'ils sont en train de faire et voir ce qu'ils pourraient améliorer. Et à partir de là, si vous voulez, ils ont des quantités d'idées. Alors, ces idées les font passer au niveau supérieur, qui est obligé de les accepter et de les étudier et de faire passer au niveau supérieur, si, etc. Ce qui fait qu'il y a, de la part de la base, une quantité d'initiatives colossales dont 2 ou 3% seulement vont aboutir, mais quand elles aboutissent, qui sont intéressantes. Ça veut dire qu'on attend des initiatives de la base pour que ça remonte vers le sommet. En Europe, c'est les ingénieurs qui sont capables de penser, puis vous, vous exécutez. Bon, c'est pas tout à fait... Alors, ils existent aussi, les ingénieurs au Japon, hein, mais ça marche dans les deux sens. Et puis, autre avantage aussi, c'est ce qu'on appelle maintenant, souvent, ce qu'on appelle la lean production, c'est-à-dire la production maigre, ou ce qu'on appelle plutôt les ateliers flexibles. Eh bien, il n'y a pas besoin d'être chez Toyota là aussi. L'atelier, le groupe à la base, on lui demande de faire un certain travail. Et, en principe, vous êtes aux États-Unis, par exemple, à la même époque, eh bien, vous décidez de faire quelque chose, l'ingénieur a décidé que ça serait comme ça, comme ça, comme ça, et c'est comme ça qu'on produit. Et le client est prié de s'adapter. Pas du tout le cas au Japon. Le Japon fait des petites séries d'une certaine façon, lorsque c'est possible. Et à partir de là, le client lui demande ce qu'il veut, et l'atelier flexible est capable de répondre à sa demande. Bon, au maximum, mais en tout cas de lui faire une petite fleur. Ça change tout du point de vue de la relation avec le client, ça change tout du point de vue de ce qu'on attend de l'entreprise, etc. Bon, ben ensuite, on a pas mal copié, hein, mais c'est en train de se faire là-bas. Donc, vous voyez, l'importance, vous voyez, pourquoi ça marche, pourquoi notre ouvrier, il est loyal. Parce qu'on lui donne du boulot, parce qu'on lui donne des responsabilités. Alors qu'à cette époque-là, nous, on le fait pas. Donc ça aussi, ça l'intéresse. Et il faut bien l'intéresser aussi maintenant, pécuniairement, s'entend. Alors il y a des augmentations de salaire. Bon, à l'ancienneté, vous avez vu, 6 fois, c'est pas grand-chose. Entre le haut et le bas. Mais surtout, ce qui compte, c'est les bonus. Les heures sup éventuellement, mais les bonus surtout. Le bonus, c'est quoi? Eh bien, c'est 2 fois par an, juste avant l'été, juste avant Noël. Ben, disons, une participation au résultat de l'entreprise. Mais attendez, c'est entre 4 et 8 mois de salaire à chaque fois. Bon, vous voyez que par conséquent, c'est quand même pas rien. Vous imaginez le stock que ça représente d'argent? Résultat des courses, épargne. Résultat des courses, investissement. Et c'est reparti pour un tour. Bon, et puis, il n'y a pas que ça. Bon, les heures sup, c'est une chose. Et puis, vous partez en retraite. Ben, vous partez en retraite avec votre meilleur salaire, ça va de soi. Mais... si c'est d'une bonne période, vous allez partir vers 62 ans, 63 ans, etc. Pour les employés, pour les agents de maîtrise, il n'y a pas de limite pour tout ce qui est au-dessus. 4, si vous voulez rester jusqu'à 82 ans, c'est pas un problème. Bon. Donc, par conséquent, si vous voulez, Là, ceux qui veulent partir, ils partent. Et quelquefois, on leur demande même, vous avez vu, départ anticipé, quand il y a un problème, de partir un peu avant. Des fois, soit 59, 60, 61 ans. Dans ce cas-là, c'est pas grave, parce qu'ils ont été loyaux à l'entreprise, ils ont droit à leur bonus de retraite. En gros, entre 3 et 6 ans de salaire. Donc, vous voyez, par conséquent. Donc, tout ça, ça fait que l'ouvrier, il a intérêt à rester dans les mêmes entreprises. Parce que si vous quittez l'entreprise en milieu de carrière, vous recommencez au début, hein. Donc, autant dire qu'à partir de là, le choix est vite fait. Donc, si vous voulez, c'est ça aussi qui fait la loyauté des employés, c'est ça aussi qui fait le patriotisme d'entreprise. Vous voyez? Et le patron, il a sa part. Lorsqu'un ouvrier n'est pas content à cette époque-là, enfin, un ouvrier, plusieurs sont pas contents, ils veulent le montrer au patron. Le patron qui vient d'ailleurs dans les rangs, etc., de temps en temps, il met son brassard, vous connaissez tous l'histoire, hein. Je mets mon brassard, je lui dis, mec, je suis en grève, mais je travaille comme si je l'étais pas. Et il va pas être payé, hein, parce qu'il a mis son brassard. Seulement, s'il fait ça, le patron, qui est au courant, soit parce qu'il est passé, soit parce que c'est remonté, on lui dit, vous avez certains de vos ouvriers qui portent un brassard, etc. Il y a un problème. Donc, dans ce cas-là, il faut immédiatement en discuter. Parce que c'est rarissime. Et donc, dans ce cas-là, on fait un conseil, on voit avec les ateliers, etc., on voit comment ça marche. Donc, c'est ça aussi qui change tout. Vous voyez, on n'a pas du tout la même façon de traiter l'ouvrier, véritablement. Les relations au travail sont assez extraordinaires. Donc, vous voyez, l'emploi à vie, c'est pas l'emploi à vie, mais vous avez compris ce que c'est, le patriotisme, vous ajoutez tout ça, vous imaginez cette main-d'œuvre, elle est formée, j'oubliais, bien entendu, quand ce que je vous ai montré tout à l'heure aussi, c'est la formation à l'intérieur de l'entreprise. La formation, elle se fait, si vous voulez, dans toute l'entreprise ici. Vous êtes formé perpétuellement. Quand vous rentrez, vous venez, donc, commencez par le bas et vous passez par l'entreprise, vous êtes formé toute votre vie. Et là, il n'est pas question de savoir si c'est de la formation continue, c'est comme ça. Vous changez, vous passez d'un truc à l'autre, vous avez une formation obligatoire, etc. Donc vous êtes interchangeable, vous êtes flexible, vous êtes adaptable. Tous des mots dont on veut parler, mais 15 ans plus tard, quoi. Bon. Donc vous voyez, toute la différence est là. Bon, ensuite, n'oubliez pas que ces gens-là, ils sont hyper éduqués. En 1969, vous avez déjà 80% d'une classe d'âge qui a le niveau du bac. J'ai pas dit qu'il y a le bac, qui a le niveau du bac. 80%. Bon, 35% de la population fait des études supérieures, de plus de 3 ans. C'est quand même pas rien. Donc, par conséquent, ces gens-là, ils sont motivés, etc. Bon, et puis alors après, parce que vous allez me dire, oui, mais c'est une croissance spartiate. Dans les années 60, ça marche de mieux en mieux, le Japon s'enrichit, l'État s'enrichit aussi, on peut tout faire, par conséquent. Parce que ce qui est dingue, c'est que le Japon, il importe pour apprendre à produire. Et puis après, on peut dire, il importe pour apprendre à produire d'autres choses. Le seul problème, c'est qu'il va tellement vite qu'il apprend à tout produire en même temps, pratiquement. Et donc, du coup, après, on a tellement d'argent, là, on augmente la protection sociale. Et aujourd'hui, la protection sociale au Japon, elle vaut largement celle qu'on a dans pas mal de pays d'Europe. Pas tout à fait la nôtre, faut pas rêver. Mais elle vaut pas mal de ce qu'on a dans des pays, que ce soit l'Allemagne ou ailleurs. Et ça s'est fait, ça, déjà, dans les années 70, y compris dans la première crise qu'on a connue après 1973. Donc, surtout, n'imaginez pas, vous avez souvent l'idée, on se dit, dans les années, au fin des années 70, le Japon, vous savez, les fourmis japonaises, Madame Cresson, etc., avec l'idée de dire, oh là, ils travaillent beaucoup, ils ont un faible niveau de vie, je suis désolé, à l'époque, ils ont déjà un niveau de vie nettement supérieur au nôtre. Qu'ils aient moins de temps pour le dépenser, ça, c'est autre chose. Ça, c'est possible. Puisque l'atelier est flexible, ça suppose, bien entendu, que vous soyez au service des autres. Vous allez, il y a un boulot à faire, vous êtes sur le point de partir, en vacances, on dit, non. Tu prends tes vacances, mais tu sais que, la japonaise veut dire tu restes, quoi. Point final. Et tu vas rester. Tu auras un bonus supérieur, mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Si vous voulez, tout ça, c'est quelque chose d'important. Une main-d'œuvre comme ça, c'est fantastique. D'autant plus que cette main-d'œuvre, à l'époque, elle est jeune. Regardez, juste pour vous montrer... Flûte. Pour vous montrer à la fin... je vais revenir par là, ce sera plus simple. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, si on prend la population japonaise... Regardez ce que ça donne. En 50, les moins de 15 ans, et surtout de 15 à 64, il y a la population qui travaille. Vous avez vu cette population active gigantesque. Pour ça que les femmes ont pu s'en passer à 29 ans, c'est pas un problème. À l'époque. Après, maintenant, c'est pas tout à fait le même principe. Regardez ce que ça donne. Autre chose qu'on peut voir aussi, qui est assez amusant, par la même occasion, dans l'évolution de la population japonaise... Vous voyez, comme quoi, il y a quelques petits soucis à se faire pour les Japonais. Vous partez du principe qu'ici, on est 1950, vous voyez qu'il y a de quoi faire. Le baby-boom, on le voit bien, ensuite, ça coince. Regardez en 2010 ce que ça donne, et regardez ce que ça doit donner en 1050. C'est-à-dire que les Japonais, ils se préparent un avenir qui, pour l'instant, est nettement moins riant, entre guillemets, que ce qu'on connaît entre nous, vraisemblablement. Mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, juste pour finir, j'y arrive, pour finir quand même, les Japonais, pour y arriver, il a fallu quand même aussi des aides extérieures. L'aide américaine, vous avez compris, pas à peine de chercher. Mais il n'y a pas que ça. Rappelez-vous quand même une chose, c'est que, et ça, on en a profité comme tout le monde, le Japon importe 97% de son énergie. Les années 60, l'énergie, elle n'est pas chère. Donc, nous, ça nous a favorisés, mais eux, encore bien plus que nous. Et rappelez-vous quand même une chose, c'est que, malgré tout, une bonne partie de nos 30 glorieuses, comme de la haute croissance des Japonais, elle est quand même fondée sur une partie des pillages, du pillage, des réserves, de ce qu'on appelle le tiers-monde à l'époque. Bon, par conséquent, une partie de notre grande croissance à nous, et la leur en particulier, puisqu'ils sont encore plus dépendants que nous de l'énergie et des matières premières, vient justement de ce qu'on appelle l'amélioration des termes de l'échange pour les pays développés. Bon, vous produisez quelque chose de manufacturé, au début vous payez avec ça un sac de cacahuètes, 2 ans plus tard vous payez 3 sacs de cacahuètes, c'est pareil pour le pétrole. Par conséquent, ça vous donne un coup de turbo colossal pour que, si vous voulez, votre, disons que vous ayez une croissance encore plus importante, etc. Bon, voilà à peu près ça donne. Alors, malgré tout, maintenant, c'est trop beau. Il faut bien que ça s'arrête. Il faut bien que ça s'arrête un jour. Alors, regardez, le trop beau, c'est ce qu'on a dit ici. Regardez les productions automobiles. 55, 50 000, 70, 5 millions, 74, 6 millions, 500 000. Bon, pas photo. Bon, à partir de là, ça va trop vite. Donc, il y a quand même des petits problèmes par moment. D'abord, les Américains commencent à la trouver saumâtre. C'est là où ils commencent à parler des Japonais qui exagèrent. Vous savez, Nixon, une image très simple, on se bat avec un bras lié dans le dos. Pas tout à fait faux. Il faut reconnaître que les Américains ont donné énormément de choses, que ce soit nous aux Japonais, puis après, effectivement, ils se sont fait avoir un peu, quoi. Bon, par conséquent, ils apprécient pas. Nixon choc. Le yen, 360. Yen pour un dollar va passer à 180. Ça va faire relativement mal. Le choc Nixon, les Japonais s'en rappellent pendant longtemps. Bon, il n'y a pas que ça. Vous avez vu ce qu'ils produisent? Vous imaginez la pollution? Vous imaginez l'environnement, les dégradations? Vous avez tous entendu parler de Mercure, Minamata, etc. 20 ans pour que l'entreprise reconnaisse qu'elle avait un tort. Bon, c'était évident. La mer intérieure, vous savez, entre les îles, complètement morte, etc. Bon, ça, les Japonais commencent à se rendre compte qu'ils sont en train de tout dire. Vous savez, c'est le moment des terre-pleins. On décapite une montagne, on la flanque dans la mer. Bon, c'est efficace, mais quand même, la tête de la montagne après, il y a quand même comme un défaut quelque part, quoi. Et donc, ça commence à poser problème. Les équipements collectifs, bien gentil, mais l'État, il a favorisé l'industrie et tout, il n'a pas pu tout faire en même temps. Les équipements collectifs, les parcs, les crèches, tout ça, il n'y en a pas assez. Les Japonais, maintenant, ils voudraient dire stop un petit peu, on aimerait aussi devenir un peu normal, on aimerait bien avoir un peu de plaisir, quoi, aussi. Ça commence à changer au début des années, justement, 70. Bon, qu'est-ce que vous avez encore, la vie politique? Quand même, réfléchissez, le triangle de fer, le même parti politique au pouvoir pendant des années et des années. Au bout d'un moment, il y a des scandales qui vont arriver. On se demande même comment ça se fait que ça ne soit pas arrivé plus vite. Bon, dans les années, début des années 70, c'est scandale. Donc, vous voyez, on arrive à la fin, l'usure d'un certain type de modèle. Bon, mais modèle qui marche encore assez bien après. Bon, après, il y a d'autres problèmes. Ça serait l'objet d'une autre conférence. Ceci étant dit, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que là, on a une deuxième ouverture au Japon. C'est la deuxième ouverture forcée du Japon. Mais il l'a réussi. Il a réussi exactement ce qu'il voulait. C'est-à-dire, la deuxième puissance économique mondiale. Bon. Ceci étant dit, maintenant il connaît, ça change, parce que le Japon aujourd'hui il a quelques problèmes, il connaît une troisième ouverture aujourd'hui, parce que il faut bien qu'il change aussi. Sauf qu'aujourd'hui, avec ça fait 10-12 ans quand même qu'il pagaille un peu, c'est la troisième ouverture, mais cette fois-ci c'est lui qui l'a fait, lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le Japon, pour la première fois de son histoire contemporaine, il choisit son ouverture, et il choisit de la faire à son tempo, à sa façon. Les deux autres ont été imposés. Oui, et les deux autres ont été réussis. Ça se trouve, il va rater la sienne. Pas impossible. Vous voyez à peu près. Bon, voilà en gros, pour vous montrer un peu ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire comment le Japon est passé de ce qu'il était rien, disons, à cette deuxième puissance économique mondiale, avec des systèmes un peu, il y avait plein d'autres choses à dire encore, etc. Mais pour vous montrer un peu l'exceptionnalité du Japon, mais malgré tout, pas si exceptionnel quand même, il y a de bonnes raisons, je veux dire, c'est une autre organisation, une autre façon de faire, donc ils sont exceptionnels, surtout pas parler du miracle japonais, c'est idiot, pas plus du miracle allemand, il n'y a pas de miracle là-dedans. Les gens, ils se sont débrouillés tout seuls, ils avaient de bonnes raisons de le faire, ils ont été de telle ou telle façon, mais le miracle n'existe pas, surtout pas en économie en règle générale. Bien, voilà, pour cette fois-ci.